dans toutes les failures, dans toutes les erreurs, dans tous les obstacles qu'on peut rencontrer, il y a quelque chose à apprendre et sur lequel en fait progresser.
Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec mon ami et frère d'armes, Laurent Bazard, illustrateur et pixel artiste. Laurent et moi, on se connaît depuis pas mal d'années. Et pour cause, il est la toute première personne à m'avoir aidé quand je me suis lancé en tant qu'illustrateur en 2013. Nous ne le savions pas à l'époque, mais cette rencontre marqua le début d'une belle amitié. Une amitié qui, au fil du temps, se transformera en collaboration. Absolument. Car début 2019, lui et moi faisions face à une situation compliquée professionnellement. Pour des raisons différentes, au même moment, nous n'avions presque plus de boulot. Mais comme on n'est pas du genre à se laisser abattre, plutôt que de se morfondre chacun dans son coin, on a décidé d'unir nos forces. Et c'est ainsi que nous avons créé le Ninja Project. Un projet collaboratif inspiré par les arts martiaux, l'une des grandes passions de mon cher ami Laurent. Aujourd'hui, le Ninja Project est terminé. Enfin non. Enfin si. Enfin, vous verrez pourquoi. Toujours est-il que nous profitons de cet épisode pour débriefer et partager avec vous les diverses leçons que ce projet personnel nous a enseignées. Dans cet épisode, on discute d'un tas de choses. Laurent vous raconte son parcours, sa découverte du pixel art, sa collaboration avec son agent, comment il a fait pour se relever après une période particulièrement sombre de son histoire. Et puis finalement, on discute de comment on s'est rencontrés, de camaraderie, de discipline et d'apprentissage. Bref, du Ninja Project et de cette manière toute particulière que nous avons de collaborer. Ah oui, et on parle beaucoup de mouvement et l'univers aussi. Je vous aurais prévenu. Alors, sans plus tarder, je vous laisse découvrir ma discussion avec Laurent Bazard. Bonne écoute. Allez, rock and roll. Salut Laurent.
Salut Jérémy.
Bienvenue sur Sens Créatif.
Eh ben, merci de m'inviter.
Carrément. C'est drôle parce que tu es une de ces personnes avec qui je discute le plus souvent, probablement. Et on n'avait pas encore enregistré un épisode. On s'y était pas encore mis.
On avait fait un embryon.
On avait fait un embryon, oui. Et puis c'était pas le bon moment.
Voilà, c'est ça. C'était un problème de bon moment. Voilà.
Et là, c'est le bon moment. Donc allez.
Let's roll.
C'est parti. Alors, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin?
Alors, moi, en général, je sors pas du lit le matin. j'y reste un petit moment. J'aime bien rester au lit et puis méditer sur ce qui va se passer dans la journée, sur ce que j'ai à faire. Et donc, je mets assez de temps, plusieurs minutes, à vraiment sortir du lit le matin. Donc, il y a rien qui me motive comme ça à jumper du lit, sauf un événement exceptionnel. Parce que j'aime bien profiter des premiers moments de la journée pour faire une petite méditation dans mon lit tranquillement. Voilà.
Tu médites sur quoi alors du coup?
Vraiment sur le tempo de la journée, ce qui va se passer, ce que j'ai à faire, et je me mets en condition pour le faire. Donc c'est pour ça que je saute pas complètement du lit.
Ouais.
Mais voilà, je me mets en activité cérébrale en fait à ce moment-là.
C'est pas mal en fait. Au final, on devrait peut-être tous faire ça.
Je pense pas, parce que moi je suis quelqu'un qui bosse plutôt de nuit. C'est le moment que je privilégie le plus pour travailler. En général, je suis crevé le matin, quoi. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que je fais quand je suis vraiment en rythme de travail, je vais peu dormir. Et donc du coup, le matin, je suis fatigué. Donc du coup, voilà,
la méditation, c'est la bonne excuse pour rester au lit, alors.
Ouais, ça peut être une bonne excuse, mais en même temps, c'est vraiment une méditation. C'est-à-dire que je profite vraiment de ces minutes-là pour mettre mon tempo de la journée, me dire voilà, il va y avoir ça à faire. Et en fin de journée, il faut être arrivé à l'étape finale de la journée.
Ok.
Voilà.
Super. Bon, on va parler de tout ça alors.
Très bien, c'est parti.
Est-ce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter du coup et dire ce que tu fais un peu dans la vie?
Alors, je suis Laurent Bazard, je suis auteur-illustrateur. Ça, c'est le titre générique. Et plus particulièrement, en fait, je suis pixel artiste. C'est-à-dire que je travaille au point par point sur l'écran de l'ordinateur, donc avec tout un matériel à côté évidemment. Donc du coup, ça donne un style qui est un petit peu particulier, quoi, parce que je dessine pas vraiment, même si j'utilise une tablette graphique. Il y a cette notion en fait de la mosaïque ou du point par point, quoi. Voilà.
Quand tu ne perds pas ton temps à jouer à des jeux vidéo.
Quand je perds pas mon temps, je joue aux jeux vidéo, qui est aussi mon autre activité.
Ça, c'est la tagline voilà. Totale.
En plus d'être papa, évidemment.
C'est ça.
Voilà. La tagline totale, voilà, c'est ça, c'est que je perds beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo, ce qui fait que tout le reste du temps, j'essaye
de le rattraper.
De faire du pixel, voilà.
Oui, et puis bon, les jeux vidéo et les pixels, c'est un
oui,
peu
oui, c'est lié, forcément c'est lié.
D'ailleurs, on va y venir. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton arrière-plan personnel, ce qui t'a amené à découvrir justement ce monde de l'image?
Alors en fait, ça part vraiment évidemment de l'enfance. Je pense que pour un tas d'illustrateurs, hein, de toute façon, ça se joue à ce moment-là, même si des fois on met plusieurs années avant de dire, ah tiens, finalement, je suis illustrateur. J'y avais pas pensé. Mais oui, en fait, je dessine depuis que je suis petit. Mais moi, c'est vraiment ça. Sauf que peut-être la différence que j'ai par rapport à certains illustrateurs qui ont peut-être à un moment découvert leur voie, leur passion et finalement leur vie. Moi, depuis que je suis petit, je sais que je veux être illustrateur. Je veux dessiner dans les livres. Je veux faire des images et voilà. Même si quand on est petit, on n'a pas forcément la notion de travail, on a quand même ce sentiment d'accomplissement, d'avoir un dessin publié dans un livre. Enfin, c'est vraiment ça qui m'a fait kiffer le dessin au départ. C'était vraiment d'aller à la bibliothèque, de regarder des BD, des couvertures de livres. Enfin, tout. Ça me faisait vraiment rêver, quoi.
Ouais.
Et en parallèle, il se trouve que mon père était fondu d'informatique. Et donc très tôt, on a eu des ordinateurs dans la maison. On a commencé avec un Amstrad, avec la cassette et tout. Et petit à petit, en fait, on a eu un Amiga 500. Et l'Amiga, ça a été vraiment la révélation. L'Amiga, c'est l'ordinateur phare avec l'Atari ST, en fait, dans les années, la fin des années 80, début des années 90. C'est vraiment ce qui a propulsé le graphisme en fait sur un écran d'ordinateur, quoi.
Avant, il y a toute une partie des auditeurs qu'on a perdu.
Bien sûr, mais complètement. Mais je vais y venir. On va expliquer pourquoi. De toute façon,
pas parce que je dis ça parce que moi je connais pas. Je suis né en 88, donc
Google est ton ami.
Ouais, c'est ça exactement.
Alors, c'est vraiment les premiers ordinateurs qui ont amené le graphisme et le son. À un niveau qui existait strictement pas avant, parce qu'avant en fait on avait vraiment très peu de pixels à l'écran, le son ça faisait des bip bip. En fait l'Atari puis l'Amiga en fait ont vraiment fait changer de technologie en fait les ordinateurs. Maintenant ça paraît très ridicule, hein, mais il y avait le nombre de couleurs était complètement multiplié, évidemment. Donc maintenant il y a même pas de limite, mais ça donnait des opportunités et des champs d'exploration qui n'existaient pas avant, quoi. Notamment à l'époque, il y avait toute une scène de demo making. En fait, l'idée c'était de faire en fait de la performance de code pour créer des animations, mettre en place du son, des petites histoires en fait. Et en général, c'était ça venait épauler le travail de ce qu'on appelait les crackers, les personnes en fait qui hackaient les jeux et qui permettaient en fait de se refiler les jeux entre copains, entre connaissances, etc. Ou même de se les envoyer quand on se connaissait pas, parce que tu pouvais aussi envoyer par la poste.
Ah ouais.
C'était un autre monde. Hein.
Ouais, ça a l'air d'être une sous-culture.
C'est complètement une sous-culture. Et dans ce monde en fait des demo makers, il y a des gens en fait qui sont révélés donc dans le coding. Il y a des gens qui se sont révélés dans le graphisme et des gens qui se sont révélés en fait dans la façon de faire des sons, en fait du soundtrack, etc., quoi.
Okay.
Et il y a des gens qui étaient capables de faire tout ça en même temps. Vraiment des petits génies.
C'est l'informatique. Ces gens-là qui t'ont un petit peu mis des étoiles dans les yeux, du coup.
Oui, complètement, parce qu'à l'époque je baignais dans cette culture-là. C'était des potes qui m'avaient initié à ce petit monde-là et ça m'a super fasciné, quoi. Évidemment, j'ai pas fait du pixel art tout de suite. J'ai fait un petit peu de chiptune, de son à l'époque avec les logiciels de l'époque. C'était vraiment en mode complètement découverte, quoi.
Ouais.
Et je fais un petit peu de pixel art, mais j'étais peut-être trop jeune, tu vois, et j'avais pas les contacts directs en fait pour faire pour intégrer des groupes de demo making. Donc j'étais vraiment plutôt dans le côté un petit peu fan qui récupérait les disquettes et voilà.
C'était du temps où t'étudiais à Nancy, ça, ou rien à voir?
Non, bah là c'était au collège, donc du coup j'étais chez mes parents au collège.
Okay.
C'est fin des années 80, des années 90, c'est vraiment là. Voilà, je suis pas...
L'adolescence, ou même l'enfance.
Ouais, c'est sortir de l'enfance, début de l'adolescence. C'était vraiment cette période-là. Sachant que vraiment toute l'enfance, bah, j'ai beaucoup dessiné. Vraiment très fan de BD. Je voulais être auteur de bande dessinée, quoi. Voilà,
okay.
À la base. Voilà, c'était mon objectif.
Ok. Et du coup, quand tu vas, justement, pour faire une boucle là, quand tu fais tes études à Nancy, c'était pour faire de la bande dessinée?
Oui, en fait, à la fin du collège, j'ai eu la chance en fait d'être orienté en section art appliqué, parce qu'il y avait une section art appliqué au lycée Lauritz à Nancy. Et c'est vraiment une chance, hein, parce que dans toutes les villes, on t'oriente pas comme ça, ou tu trouves pas, et bah tu te retrouves. Peut-être à l'époque, c'était tu allais faire A3, tu vois, lettres avec un petit peu de dessin à côté. Et ça n'a rien à voir, parce que là, c'est, je crois, en A3, tu devais avoir une dizaine d'heures. Désolé, hein, si je me trompe, c'est qu'on fait A3. Je ne vous dénigre pas. Mais c'est juste que nous, on passait à plus de 20 heures de pratique artistique par semaine. Donc c'est presque un pré-BTS, quoi, en fait. Et ouais, les sections à appliquer, enfin c'était vraiment une super période, parce qu'en fait on voyait absolument tout, quoi, de la mode, de l'architecture, du design. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, en fait, mon idée d'être auteur de bande dessinée, elle s'est à la fois renforcée, mais en même temps le champ c'est complètement ouvert, parce que en fait, bah on peut faire énormément d'autres choses, et on peut faire toutes ces choses-là et quand même devenir dessinateur BD, ça n'empêche pas. Donc j'étais dans cette optique-là au lycée, quoi.
D'accord.
Et ensuite, bah, comme je travaillais pas très bien en maths, j'ai pas eu un dossier suffisant pour postuler dans plein d'écoles, mais encore une fois, beaucoup de chance. À Nancy, il y a une école nationale des beaux-arts. Bah, du coup, bah, j'ai postulé. Ça a pas été très compliqué de rentrer. Et puis voilà. Donc, j'ai continué à Nancy. À étudier.
En communication visuelle.
En communication visuelle, toujours dans l'idée de devenir dessinateur de BD à la fin.
Et il y avait pas de section bande dessinée à ce
moment-là?
Non,
pas du tout. Bah, non. Voilà, pas du tout. Puis.
J'ai fait les beaux-arts, il y avait une section bande dessinée de mon temps.
Oui, voilà. En Belgique.
En Belgique.
Voilà. Quoi. Non, on est en France, là.
Si
tu vas pas Angoulême, à mon époque, si t'étais pas Angoulême, tu faisais pas de bande dessinée. De toute façon, on était considérés comme des faiseurs de petits Mickey. Donc, ça limite un petit peu les perspectives. Par contre, ce qui était vraiment intéressant, c'est que l'attrait était vraiment mis sur le design graphique. Vraiment un domaine que j'ignorais pas, mais dont j'étais pas forcément complètement fan. Et j'ai appris à apprécier la typographie, j'ai appris à apprécier la mise en page, la photographie, toutes des choses en fait qui me seraient pas du tout venues à l'idée d'explorer en voulant juste faire de la bande dessinée. Alors qu'en fait, bah tout est lié.
Utile, quoi.
Oui, c'est super utile.
Everything is connected.
Exactement. Holistique.
Et du coup, quand tu te lances en 2001, c'est pour dans l'idée de faire de la bande dessinée?
Alors en fait, le cursus des Beaux-Arts m'a amené à découvrir le métier d'illustrateur, parce que là j'ai vu que bah, les auteurs de bande dessinée étaient aussi des illustrateurs, et ça c'était vraiment la meilleure claque que j'ai pris, c'est qu'on pouvait vraiment faire beaucoup de médiums différents, et on n'était pas obligé d'être un moine en train de faire de la bande dessinée, et d'ailleurs je me suis rendu compte que je pouvais pas faire ça, parce que c'était pas ma capacité, parce que c'est un vrai travail de chien la BD, hein. C'est vraiment difficile. Et oui, donc je me suis rendu compte qu'on pouvait faire aussi de l'illustration, c'est-à-dire vraiment une image qui vient mettre en valeur un texte ou même exister par elle-même, les couvertures, toutes ces choses-là, quoi. Ça, c'est quand même des choses qu'on a étudiées. Les profs étaient avaient assez faim, en fait, de nous montrer ces voies-là. Donc, du coup, ça va.
Plutôt, c'était une sorte de révélation quand il y avait autre chose qui existait, quoi.
Oui, bien sûr. Si je le savais, je le savais évidemment avant, quoi. Mais là, ça devenait concret. Puisqu'en fait, on avait tous les élèves de la génération présente. Quand je parle de génération, c'est 5 ans d'écart. C'est-à-dire que quand tu rentres en première année, bah, il y a ceux qui passent leur diplôme en 5e année et tu les côtoies, ça devient des copains, malgré la différence d'âge. Et c'est là où c'est génial parce que tu commences à faire les connexions et ces gars-là, en fait, bah, quand toi, tu poursuis ton cursus, eux, ils sont dans la vie réelle, à travailler et eux, ils commencent à faire justement des illustrations, à faire de la BD, à faire de pas mal de choses. Et là, tu te projettes tout de suite, quoi. Là, t'as compris. Tu sais que voilà, tu sors l'année suivante, c'est possible. Tu peux faire des choses.
Du coup, quand tu t'es lancé, c'était tout de suite en tant qu'illustrateur, mais tu faisais pas du pixel art tout de suite.
Non, c'était vraiment de l'illustration.
Et t'avais des BD, non?
Oui, voilà, c'est ça. C'était un style qui était assez bande dessinée. Moi, j'étais fan de Julie Doucet, donc autrice québécoise de bande dessinée.
Je connais pas.
Ouais, voilà, c'est
un petit... Désolé.
Mais je pense que plein d'auditeurs savent qui est Julie Doucet. Elle est très connue en fait. Hein. Elle fait vraiment partie du background en fait nord-américain au niveau de la bande dessinée. Elle est vraiment très. Voilà, c'est une pointure, quoi.
Ok,
voilà.
J'irai voir.
Avec vraiment
des
travaux vraiment, vraiment forts, quoi. Et moi, je baignais vraiment dans cette culture-là nord-américaine. Tu vois, Art Spiegelman, tu connais Crumb et compagnie. Mmh. Donc là, c'est pareil, c'est des choses que j'avais nourri aussi aux Beaux-Arts. Choses qu'on découvre au fur et à mesure en côtoyant des personnes. Et puis, tu ouvres ta culture. Et c'est vrai que cette culture nord-américaine de la bande dessinée m'avait vraiment fasciné parce que c'est une littérature à la fois du quotidien, mais à la fois du fantasmé.
Ouais.
On n'est pas du tout dans le fantastique. Même si, par exemple, des auteurs comme Charles Burns font du fantastique aussi, mais c'est toujours ancré dans la réalité.
C'est un peu contre-culturel aussi.
Oui, complètement, ouais.
Oui, voilà.
Voilà.
Ça se retrouve aussi un peu dans ton arrière-plan avec les demo makers et tout, c'est un peu.
Oui, on est vraiment.
Une culture alternative.
Oui, on est vraiment là-dedans. Moi, ce que la lacune que j'avais, elle était musicale à l'époque. C'est-à-dire que j'ai vraiment une culture musicale vraiment, vraiment pourrie.
Ok.
Voilà. Et, j'ai tout mis dans le visuel, en fait, dans le graphique. C'est là où je me suis dit, tiens, il y a un endroit, en fait, que peu de gens s'intéressent, ça a l'air vraiment super et c'est aussi fort que justement les courants musicaux de la même époque, hein. c'est les courants des années 80, tu vois, et que je connaissais très mal, tu vois, moi Velvet Underground, tout ça, je...
Ah, tu connaissais pas, ouais.
Ben non, c'était pas... J'avais jamais été éduqué à cette culture musicale que je connais très bien depuis, mais voilà, moi c'est vraiment le côté visuel qui m'a amené à ça.
Ok, donc tu te lances, tu fais tout début de bande dessinée. Et puis
vraiment rien de fou, hein. C'est des publications voilà, dans des magazines, des petites participations à des collectifs ou des choses comme ça, hein. Ça, y a rien, j'ai pas vraiment fait d'album de bande dessinée à ce moment-là. Là j'étais vraiment dans l'idée de l'illustration. Donc en fait, je mettais le style que j'avais en bande dessinée dans l'illustration, en fait, tu vois, dans le médium de l'illustration.
Ah oui.
C'était vraiment, voilà, mon style était...
Et un an plus tard, bim, tu fais que du pixel art, quoi. Enfin, bah, l'illustration.
Voilà, en fait, à un moment dans mon parcours, j'ai eu la nécessité, en fait, de développer un autre style. Je me suis rappelé, en fait, ce que j'adorais faire quand j'étais ado, quoi. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi tu te mettrais pas, justement, à utiliser l'ordinateur, vraiment, pour ce qu'il est, et dans son atome le plus minimaliste, bah, c'est le pixel, quoi. Donc, je me suis remis au pixel. À l'époque, évidemment, eBoy commençait à être connu. Mais c'était pas encore la folie, tu vois. C'était juste, bah, voilà, si tu t'y connaissais en pixel art, voilà, eBoy commençait à vraiment faire des boulots intéressants. Et là, je me dis, bah ouais, en fait, les gars, ils font de l'illustration et ils font du pixel art en faisant de l'illustration. Bah, vas-y, tente, enfin, essaye de faire quelque chose, quoi. Évidemment, je me suis rendu compte tout de suite, fallait absolument pas les copier.
Non. Parce que c'est déjà une sous... Enfin, c'est un style très spécifique.
C'est déjà un style spécifique, ouais. Parce que c'est de l'isométrique. Moi, j'ai commencé par l'isométrique, hein, dans le pixel art, parce que c'était ce qui avait le plus logique pour moi au niveau composition. Mais ouais, je me suis rendu compte très vite que si tu vas sur les traces de quelqu'un qui fonctionne déjà très bien comme ça, si tu recopies, c'est vraiment le plus mauvais des départs que tu peux faire. Donc, il y a un travail au départ pour trouver ma marque de fabrique, tout en pouvant évoluer dans ce monde-là. Puisque de toute façon, des pixel artistes qui font de l'isométrique à l'époque, y en a plein. Donc voilà, c'est juste eux, c'est les meilleurs.
Ouais, mais aujourd'hui, oui, il n'y en a plus beaucoup qui font du pixel art, il me semble.
Si, le pixel art, c'est complètement explosé. Il y a vraiment énormément de personnes.
Ou en France ou...
Ah oui, même en France. Ouais, même
ok,
en France,
bon,
ouais.
Écoute...
C'est juste que voilà, moi...
En plus, tu me l'as montré sur Instagram.
Ouais, voilà, en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que le pixel art, il est beaucoup utilisé dans le domaine du web, et ouais. Donc dans tout ce qui est numérique, ouais. Et que le print...
C'est plus ça que je pensais. Voilà. Au print,
ah non, ouais, dans le print, il y a très peu de, tu vois, très peu de pixel art. En fait, tu vois toujours les mêmes personnes. Hein.
C'est ça. Voilà. Dont toi.
Dont moi.
Ouais. Trop bien.
Youpi.
Et du coup, attends, mais j'essaie juste de raccrocher les wagons. Voilà, pixel art, tu te lances, les commandes arrivent. T'as pas besoin de lever le petit doigt, les commandes affluent. Tu peux me parler de cette époque-là, un petit peu?
Alors en fait, voilà. Du moment en fait où je vois que le pixel art il peut fonctionner, parce qu'en fait je travaille au début avec SVM Mac, et ça commence à fonctionner, c'est-à-dire que du moment où tu es publié quelque part, d'autres magazines te repèrent et donc ils continuent à te donner du boulot. Donc j'ai un petit peu commencé comme ça, donc il y a eu du Libé, il y a eu du Monde, et c'est bien parce que pour démarrer, bah t'as déjà des noms intéressants, ouais. Et c'est forcément plus facile après d'aller voir d'autres personnes. Donc du coup, j'ai pu bosser pour les Inrocks, ouais. pendant plusieurs années comme ça, avec du pixel art maintenant je retrouve quand je regarde mes vieux boulots, ouais, c'était assez minimaliste par rapport à ce que j'ai pu faire après, mais ça fonctionnait. C'était des j'avais notamment en charge de temps en temps le courrier des lecteurs ou une petite rubrique en fait techno, tu vois.
Et t'avais pas aussi une petite BD sur Nicolas Sarkozy?
Ouais, en fait ça faisait partie du trip, c'est-à-dire que de temps en temps il y avait des articles sur la vie politique ou des choses comme ça. Donc j'en profitais, tu vois, c'était un peu mon c'était un peu mon envie d'être dans Charlie Hebdo, tu vois. Je me dis, tiens, je peux faire aussi la caricature politique dans les Inrocks, bah pourquoi pas, quoi. Ouais, donc du coup j'ai fait quelques petits strips sur Sarko.
Et puis, grâce à ton ami Yacine, il te met en contact avec Illustrissimo. Alors, 2006, en 2008, un truc comme ça.
En 2006, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'est intéressant. Moi, je connais pas bien Yacine, en fait, à l'époque. Je connais son travail parce qu'en fait, il travaille pour Fluide Glacial. Donc Yacine est assez incontournable à l'époque, parce que c'est lui qui, en France, fait du pixel art. Mais moi, en fait, je le découvre, parce que je suis toujours un petit peu mauvais pour dénicher des choses qui sont sous mon nez. Moi, il faut que j'aille chercher à l'autre bout du monde des trucs que personne connaît. Mais tout ce qui se passe à côté de chez moi, je connais pas. Et du coup, je connaissais pas Yacine, moi, quand j'ai commencé à faire du pixel art. Pourtant, lui, il en faisait, quoi, tu vois. Là où c'est intéressant, c'est que c'est Yacine qui est venu me chercher, qui est venu vers moi. À un moment, pour me proposer en fait de participer à un festival qui se déroulait à Beauvais, le festival des pixels. Et moi, j'étais super content parce que c'était l'occasion en fait de rencontrer mes pères, quoi, tu vois. Mes pères, P-A-I-R-S.
Oui, oui, oui.
Papa Yacine. Non. Bah non, au contraire, justement, je me disais, bah voilà, je vais enfin voir les gars qui font comme moi, quoi. Ça, c'est fun. Ils sont pas du tout dans mon univers, en plus.
Ça faisait quoi de les rencontrer?
Bah c'était grisant parce que je sortais de ma petite grotte à moi, et puis je côtoyais des gars qui étaient vraiment dans l'underground. Alors je dis pas que je crevais d'envie d'être dans l'underground, mais ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré, qui m'a fasciné, parce que c'est vrai que j'aime pas trop rentrer dans les cages, j'aime bien faire des choses un petit peu borderline, quoi. Et c'était sympa de voir des gars qui le faisaient vraiment, quoi. toi pour le coup, je dis ah ouais, là, il me reste encore tout ça à faire. Eux, ils sont déjà là. Ça, c'est intéressant. Donc du coup, bah j'ai appris des choses. On s'est pas vu beaucoup ni très longtemps, mais voilà, c'était vraiment fort quoi. Ce qui est formidable, c'est que Yacine il m'a donné un grand coup de main à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait un travail en fait qu'il pouvait pas faire, qu'il pouvait pas réaliser, et il était lui déjà chez Illustrissimo, donc l'agent d'illustrateur. Donc il m'a recommandé à son agent, il m'a dit bah voilà, il y a quelqu'un qui fait du pixel art, lui doit pouvoir peut-être faire ce travail-là. Et donc du coup Nicolas Pizzali chez Illustrissimo m'a contacté, puis on a fait un travail ensemble, un travail de longue haleine qui était assez assez fastidieux. Il y avait toute une carte en fait sur un univers du pétrole, de l'essence, parce que c'était pour une boîte en Afrique du Nord qui une espèce de multinationale en fait qui vendait de l'essence et du pétrole quoi.
D'accord.
On a commencé comme ça, on a fait une grosse ville ouais. À la e-boy, tu vois, ça a commencé comme ça.
Ouais. Oui, forcément. C'est quelque part, quoi.
Voilà, les gens à l'époque voulaient ce genre de panorama. Mais bon, moi, je l'ai fait à la Laurent Bazar et ça s'est très bien passé. Et puis, bah, du coup, Nicolas Pizzali m'a proposé en fait, de rejoindre Illustrissimo, donc avec Michel Lagarde. Donc, bah, j'étais super content parce que c'était sans le demander, j'avais réussi à avoir un agent à ce moment-là. Voilà. Donc là, c'était vraiment une période. Une période vraiment faste, vraiment très intéressante, puisque tout arrivait.
Oui, qu'est-ce que l'agent a changé pour toi ?
Eh ben, le rythme de travail, et puis surtout, bah, le volume des commandes, quoi. Parce que, forcément, quand t'es tout seul, bah, tu peux pas vraiment dealer tout comme tu voudrais ou comme tu le penserais, parce que tu es ignorant de tout. Tu sais pas du tout quels sont les prix.
Ouais.
Va parler des droits.
On est tous super mauvais.
Quand t'as fait que de la presse, et très peu de com, tu sais pas trop à quelle sauce tu vas te manger, quoi. Tu connais pas toutes ces choses-là. Donc ça m'a apporté des boulots en com, en pub. J'ai pu travailler sur des publicités avec des animations de mes créations. Enfin,
Ouais, ça a été cool. Un truc pour Chocapic, de souvenir.
Alors non, ça c'était plus tard. Mais okay. Le premier qu'on a fait, c'était pour Urbania. Et donc là, pareil, c'est une boîte en fait qui fait de la gestion locative. Et donc, fallait représenter en fait un immeuble. Et dedans, il se passait des petits scénarios qui duraient une ou deux minutes. Donc c'était pour encourager les gens à devenir propriétaires et puis à louer, etc. quoi. Ou alors à souscrire à des gestionnaires de copropriété. Enfin voilà.
Ok.
Mais voilà, du coup ça a été un super gros boulot et qui fait que ça a rentré direct de la thune comme j'avais jamais eu. Donc là c'était bien quoi. Là je me dis ah ça y est, là on y est quoi. Là on parle gros sous.
Plein de taf.
Plein de taf.
Donc tu fais ce qui te plaît.
Voilà.
Les commandes affluent. Tu bosses continuellement pendant des années.
Voilà.
Et puis
là, c'est le drame. Alors, en fait, bon, il m'est arrivé ce qui arrive à beaucoup de personnes, c'est-à-dire que j'ai une rupture en fait à ce moment-là, une rupture sentimentale, et ce qui fait qu'en fait, ça a complètement remis en question tout ce que j'avais fait jusque-là. À l'époque, avec ma copine de l'époque, on avait acheté une maison. Et forcément, la maison, elle disparaît du paysage parce qu'il faut la revendre. Et puis il y a la dépression qui vient là-dessus, qui est inévitable. Pas mal d'autres facteurs comme ça qui font que on se retrouve un petit peu au milieu de sa vie et puis on se dit qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui va se passer. Pourtant j'avais rien perdu puisque j'avais toujours mon agent, j'avais toujours mon travail, mais c'était juste une perte de sens en fait. C'est vraiment le fait de se retrouver dans un endroit qu'on connaît absolument pas, qui est la dépression, et de se dire comment on sort de là quoi. Et en fait je pense que là où ça a bien fonctionné, c'est que j'ai écouté les personnes qui m'ont conseillé, qui m'ont donné les bons conseils à ce moment-là pour pas perdre de temps en fait, pas perdre de temps, parce que même quand on est mal, ça empêche pas de faire les choses bien, ça empêche pas de pas se laisser complètement sombrer, même si toi l'environnement est pesant en fait, tu vois, l'environnement que tu peux avoir intérieur quoi, l'environnement dans ta tête est un petit peu pesant, tu continues à bosser, tu continues à faire des choses. Et tu te relèves petit à petit, quoi. Voilà.
Et c'est quoi les conseils qu'on t'a donnés pour
Déjà d'aller voir une psychologue, tu vois.
Déjà,
c'est la base. Quand ça va pas bien, allez voir un professionnel qui peut vous aider, parce qu'en fait, votre famille peut pas vous aider, vos copains peuvent pas vous aider. En fait, ils peuvent juste vous filer un bon conseil, quoi. C'est tout. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une démarche comme ça à cette époque-là. Et puis ça a fonctionné. J'ai pas mis trop longtemps à me relever et puis à me dire que si en fait la vie elle pouvait continuer. Et en fait en même temps il y a un truc vraiment complètement débile, mais ça je pense que tout le monde peut avoir cette espèce de bouée de sauvetage à côté, c'est que moi je me suis plongé dans les séries TV. À l'époque il y avait pas grand chose à regarder hein, pour télécharger tout ça fallait y aller, mais il y avait notamment Lost et je me suis complètement investi dans cette série. À tel point que j'ai fréquenté un forum avec d'autres tarés qui regardaient aussi la série, et du coup je rencontrais des amis virtuels, donc au départ, et qu'on a discuté de la série et de ses tenants, de ses aboutissants, parce qu'en fait ça parlait énormément de philosophie. C'est une série qui est beaucoup basée sur la philosophie, parce que quasiment tous les personnages ont des noms qui ont rapport à des philosophes, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Puis évidemment il y avait tout un scénario à dévoiler, puisque la série continuait encore, donc on savait pas juste du tout où est-ce qu'elle allait mener. Donc on parlait de toutes ces choses là. Et ces amis là sont devenus des vrais amis en fait dans la vie. Et là où ça allait encore plus loin, c'est que j'ai rencontré la personne avec qui je vis actuellement, Géraldine. Et donc en fait cette période là où je mangeais des madeleines, où je mangeais des yaourts à la framboise tous les jours, et elle a commencé à devenir beaucoup plus intéressante, et j'ai rencontré des personnes en fait qui étaient des personnes différentes de celles que je connaissais avant. Donc on peut refaire en fait à un moment, on peut refaire sa vie, on peut refaire des choses et repartir, quoi. C'est pas parce qu'il nous arrive une tuile, et moi c'est pas une tuile énorme, hein, c'est juste une rupture sentimentale. Il y en a, il leur arrive des tuiles physiques et
oui, mais ça t'a plombé à l'époque.
Mais moi
quoi.
Ça m'a plombé, voilà. Après chacun son fardeau, mais voilà quoi. L'important là, c'est de se dire non, en fait on peut, même quand on est perdu, on peut retrouver des chemins et les explorer et trouver des nouveaux horizons, quoi. De toute façon il faut jamais s'arrêter à un blocage, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Voilà.
Du coup t'as pu rebondir.
Du coup j'ai pu rebondir. Et ça m'a fait venir sur Paris, parce qu'en fait Géraldine travaillait à Paris dans le monde du cinéma, parce qu'elle travaille chez un distributeur, Carlotta. Voilà, un petit coup de pub. Ils font du film de patrimoine, de très bonne qualité. Et donc du coup cette démarche là d'aller sur Paris m'a amené à Paris à revoir complètement ma façon de voir le travail, d'anticiper les choses, parce qu'il a fallu reprendre un appartement. Donc c'est-à-dire qu'il y a tout de suite un besoin financier, quoi. Il fallait rentrer de l'argent tout de suite, et donc je me suis vraiment remis dans le travail à ce moment-là, quoi.
Rappelle-moi, t'as déménagé en quelle année?
C'est donc en 2011. Voilà. Okay. En 2011, je suis arrivé à Saint-Mandé, ouais. À Paris.
Je pose la question parce que, comme tu sais, moi je débarque dans l'histoire en 2013.
Voilà, exactement, voilà. Donc oui, on va raccrocher.
Ce que les auditeurs savent pas, c'est que je connais bien l'histoire de Laurent, en fait. C'est pour ça que. Enfin voilà, c'est parce que je
on va expliquer.
Histoire, quoi, ouais.
On va expliquer.
Et donc,
alors, il se trouve que dans les amis avec qui je parlais de Lost, il y a un certain Jean-Philippe Le Pelletier.
Big up.
Salut Jep. Et il se trouve qu'avec Jean-Philippe, en fait, on a énormément parlé de tout et de rien. Vraiment des discussions qui étaient à la fois très profondes et des discussions qui étaient complètement débiles. Et en fait, on s'est tellement connectés qu'on a fini par se donner d'autres connexions. C'est-à-dire que Jean-Philippe, il a parlé de moi à Jérémy.
Voilà. Là, c'est le moment où c'est moi qui prends
la
parole.
Et là, c'est le moment où tu parles.
Oui, donc moi, je débarque en 2013. J'en ai parlé dans mon premier monologue, je crois, l'épisode 4. Et Jean-Philippe, qui est un ami à moi aussi, me recommande d'aller voir Laurent. Parce qu'il me dit, tu veux te lancer en tant qu'illustrateur? Va voir Laurent, il va te donner plein de bons conseils. Et c'est ce que j'ai fait, je t'ai écrit.
Exactement.
Et puis,
j'ai reçu un mail.
Ouais, juste salut, je suis un ami de Jean-Philippe, je débarque à Paris, je veux me lancer en tant qu'illustrateur. Et je pense que j'étais vachement flippé de l'administration française.
Alors, juste pour l'anecdote, c'est que moi, je pense que ça arrive à pas mal d'illustrateurs, d'illustratrices, c'est de recevoir en fait des CV de gens qui veulent devenir illustrateurs. Mais en général, ils sont beaucoup plus jeunes que toi.
Ah, oui.
Et tu dis, oh là là, qu'est-ce qu'on m'envoie encore? Qu'est-ce que ça va être? Il va falloir que je l'oriente vers du lycée, etc. Enfin, ou alors c'est pour des demandes de stage ou des choses comme ça.
J'ai déjà eu ça.
Mais non, voilà, j'ai tout de suite ça venait de la part de Jean-Philippe. Donc, ok, on va regarder.
C'est ça. Et puis tu m'as reçu chez toi.
Non, voilà, blague à part. J'étais très content, voilà.
Oui.
Jérémy m'a fait un petit peu expliquer son parcours. Moi, je le trouvais vraiment sympa, son parcours, parce qu'il était parti en Angleterre et t'avais rencontré Madeleine, qui habite à Paris.
Ça.
Donc, du coup, on avait un peu près
On est tous les deux venus à Paris pour une femme.
Exactement, c'est ça.
C'est
un petit peu la même raison d'être sur Paris.
Ah, les grands romantiques.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, je me suis dit voyons ce Jérémy, parce qu'en fait tu faisais déjà un petit peu d'illustration.
Ouais, un petit peu. Ouais.
Voilà, tu te voulais vraiment devenir illustrateur.
Ah ouais, j'étais sérieux.
Et espèce de fou, sérieux. Tu voulais venir en France sur Paris pour le faire. Évidemment, avec l'administration française, l'administratif est très compliqué en France. Toi, t'es belge pour les auditeurs, je le rappelle. Si ils le savent pas encore.
Et toi, ça faisait déjà 15 ans, je pense, que tu bossais
Alors, en 2011.
Enfin, je suis très chiffre, mais
attends, 2011, 2013. Ouais, c'est une douzaine d'années. Douzaine d'années, ouais.
Ouais. Et donc, du coup, Laurent m'explique un peu dans,
oui, voilà,
en une après-midi, voilà, l'administration française. Voilà. Ça m'a vachement aidé. Tu m'as aussi donné quelques contacts de DA, notamment dans la presse jeunesse. Et puis, voilà, c'est une chouette rencontre. Et puis, je suis rentré chez moi avec des clés. Et je me souviens, au tout début, t'étais vraiment quelqu'un, moi, je suis quelqu'un de relativement bavard. Voilà, les auditeurs le savent. Probablement déjà, mais toi aussi. Et il s'avère que
oui, enfin, la plupart des gens que t'interviews sont très bavards. Hein,
aussi,
en
oui, bah, je pense qu'il faut un minimum voilà, avoir envie de discuter. Peu, ouais. Si tu viens ici, quoi. Mais je me souviens quand je pense qu'au début on a toujours un peu peur de poser des questions à des aînés parce qu'on se dit on va les déranger, ils sont occupés ou quoi que ce soit.
Ah ouais, en fait, faut pas hésiter.
Faut pas hésiter. Enfin, je te posais mes petites questions complètement stupides, du moins de mon point de vue parce que j'y connaissais rien. Et tu me répondais avec des romans et des pavés. Alors
après,
moi,
chacun,
super heureux.
Après, chacun a sa personnalité. Ouais, moi, j'adore répondre.
Ouais, c'est
là, moi, je trouve ça super kiffant. J'adore aider. Et donc, bah, du coup, j'étais super content de te filer tous ces conseils-là parce que je me disais, bah, tiens.
Ça sert à quelque chose, voilà. Quoi.
Quelqu'un qui me demande, tu vas lui dire.
Je pense qu'on fait aussi des métiers. Enfin, l'illustration, le freelancing, et c'est pas forcément évident.
Ouais, la vraie raison, c'est ça. C'est-à-dire
que. Coup, transmettre.
Ouais, on est tout seul dans notre coin et t'as raison, c'est ça. Transmettre, en fait, les infos qu'on a pu glaner et que nous-mêmes, on tient de personnes qui nous ont aidés.
Ouais.
Voilà, moi notamment Jean-Marc Matisse, Diego Aranega, voilà, c'est des personnes qui quand j'ai démarré étaient là et m'ont filé plein de conseils parce qu'ils étaient déjà dans le business, dans le game, tu vois.
Ouais, ouais.
Voilà, quand t'as des personnes de cette qualité là qui te donnent des conseils, bah t'as qu'une envie, c'est peut-être un jour de pouvoir le transmettre aussi, parce que c'est ça la transmission qui est intéressante.
C'est donner parce que t'as reçu, quoi.
Voilà, complètement.
Et aussi l'idée. Si t'as eu des galères, autant qu'elles servent à quelque chose,
bah voilà. Si on m'avait rien dit, si je m'étais fait by myself, tu vois, peut-être que j'aurais pas besoin de filer des conseils à quelqu'un. Je dis bah débarque-toi. Alors, non, là, c'est vraiment ça. C'est le besoin de transmettre ce qu'on m'a transmis. Ça, c'est évident.
Et puis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Mmh. On s'est pas revu physiquement avant quelques années.
Oui,
on s'écrivait par mail et tout. Et le contact passait bien. C'était cool. Et puis après, en 2017, nos chemins se recroisent. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé entre 2013, 2017, qu'est-ce qui fait qu'on a reconnecté, en fait?
Ouais, en fait, voilà, moi, c'est les périodes sur Paris, en fait, sont à la fois merveilleuses et à la fois compliquées, parce que donc en 2013, le petit Joachim naît et du coup, on est trois dans notre famille et donc la famille s'agrandit et du coup, il y a encore plus nécessité de bien travailler pour pouvoir rester sur en région parisienne. Et du coup, en même temps, c'est très compliqué parce que les revenus sont pas toujours à la hauteur des besoins financiers. En fait, c'est compliqué, quoi, d'habiter sur Paris, quoi. Mais de toute façon, toutes les grandes villes, c'est comme
aussi.
Ça. Je pense que Londres, c'est encore pire.
Oui, oui.
Voilà. Puis avec un enfant, bah, ça rajoute encore une couche de plus. Et donc, bah, du coup, bah, tu travailles pour payer ton loyer, quoi. En gros, c'est une période hyper compliquée, un petit peu comme ça, où on se retrouve dans une routine. Moi, en fait, j'avais pris l'habitude que les boulots arrivaient. Donc du coup quand j'ouvrais le robinet, bah il y avait tous les mois puis un petit boulot qui tombait, donc c'était bien, c'était intéressant. J'avais également une petite soupape de sécurité parce que je travaillais tous les mois pour Sciences et Vie Junior. Donc ça c'est bien, j'avais un petit boulot fixe, ça rapportait pas non plus des masses, mais c'était moi je me disais bah tous les mois il y a un truc, quoi.
C'est clair, oui.
Bah, c'est sûr. Et puis bah petit à petit avec les histoires de crise, tout ce que tu veux, bah les sources elles finissent par se tarir. Et moi ma grosse erreur sur toutes ces années-là, c'est que j'ai pas communiqué sur mon travail, en fait.
Okay.
En dehors des sites internet personnels ou du site de mon agent chez Illustrissimo. Je suis pas intéressé aux réseaux sociaux.
Les fameux réseaux
Facebook,
sociaux.
Je supportais pas. Ouais. Puis Instagram, ça m'est passé au-dessus de la tête, quoi. Vraiment. Donc j'ai pas du tout pris le train en marche, quoi, en gros. Et le fait de pas non plus beaucoup sortir, de pas aller voir les gens, font que je me suis retrouvé dans un espèce de cercle vicieux qui fait que bah les boulots n'arrivaient plus et moi j'arrivais plus à récupérer des boulots juste en envoyant des mails, quoi. Ça se passe pas comme ça. Ça c'est terminé. C'est-à-dire que moi je viens de l'époque où on allait avec le book sous le bras, avec les dessins et on allait voir les directeurs artistiques, on prend des rendez-vous, quoi. C'était vraiment comme ça, il y avait pas d'autre manière de faire. C'est-à-dire que les gens te recevaient
puis, l'ancienne.
Voilà, l'ancienne. Dans la journée, tu te programmais des rendez-vous, tu vois. Donc t'avais un à l'est de Paris et il fallait aller à l'ouest de Paris l'après-midi, etc. Enfin, c'était un vrai parcours de combattant.
Chasser le bison, quoi.
Tu vas chasser le bison, hein, c'était vraiment ça. Mais c'était très enrichissant. Enfin, j'ai des bons souvenirs d'avoir fait ça. Mais là, c'est terminé. Ça se passe plus comme ça. Les gens ne se contactent plus par mail. Ils se contactent par message privé directement sur les réseaux sociaux. Et c'est un univers qui était totalement étranger à ma démarche, quoi. Non pas que je connaissais pas les réseaux sociaux, mais non, je voulais pas, j'étais un espèce de réfractaire.
Non, je ne le ferais pas.
Ouais, non intrusif, tu vois, voilà. Et c'est ça. Moi, je le ferais pas, quoi.
Ok.
Grave erreur.
Jusqu'à ce que tu te retrouves un peu coincé, quoi.
Ouais, complètement coincé. C'est-à-dire avec des revenus qui sont complètement en dessous de ce que j'avais besoin. Donc en fait, bah, heureusement que j'avais de côté des années fastes. J'ai pas tout dépensé.
Ouais.
du coup, ça a sauvé la mise. Mais oui, les revenus étaient pas à la hauteur. Quand t'es dans ces situations-là où tu cravaches, bah, tu penses plus à faire des boulots personnels non plus. Donc, et tu te retrouves à faire ton métier d'illustrateur, comme si t'allais à l'usine, sauf que, bah, t'as même pas le salaire à la fin du mois, quoi.
Ouais.
Voilà. Et c'est comme une réalité pour pas mal de gens actuellement, quoi.
C'est clair.
Voilà. Quand tu marches pas, bah.
Personne ne voit que t'es en mouvement.
Et ouais. Et puis, tout le monde pense que ça marche pour toi. C'est ça aussi.
Alors que pas forcément.
Et non.
Et je pense que c'est à cette période-là, je pense que j'ai dû te faire un mail, et puis toi tu m'as répondu, et puis tu m'as dit « Tiens, y a tel truc, on pourrait y aller pour rencontrer du monde. » Et c'est comme ça qu'on a reconnecté.
Mm-hmm.
Je me souviens, on a été manger un bout, et puis voilà, on avait été à ce truc qu'on n'a pas continué. Mais on avait reconnecté. Et puis moi, à cette époque-là, j'étais très projet perso. Je pense que c'est à ce moment-là que j'avais fait ma formation avec Andy G. Pizza.
Ouais, exactement.
Et j'avais initié, bon, les auditeurs connaissent aussi un peu ce projet, mais donc mon premier zine,
mm-hmm.
Basé sur Daring Greatly de Brené Brown. Et je t'avais demandé, comme sur un
album
de rap,
mm-hmm.
d'avoir des featuring.
C'est exactement.
Et plusieurs personnes qui avaient participé, et dont Laurent. Et puis voilà, ça a fait son petit bout de chemin.
Et puis Andy.
Andy aussi, notamment, ouais, c'est ça. Ensuite, voilà, on se reparle. 2018, je sors mon second zine, je deviens papa. Et en fait, c'est à mon tour de connaître un peu la même situation que toi, c'est-à-dire, je deviens papa à mon tour, et là, en fait, c'est super galère, enfin, au niveau financier. Bon, de nouveau, je me répète, les auditeurs qui connaissent bien le podcast connaissent, j'en ai parlé dans l'épisode 16, il me semble. Et toi et moi, on se retrouve un peu comme deux imbéciles à se regarder dans le blanc des yeux, genre comment on va faire.
Comment
et puis moi j'étais prêt à un petit peu à tout décrocher. Pourtant ça faisait 6 ans que je faisais ça, que je plaçais mes dominos et tout.
Pour vraiment que les auditeurs comprennent bien, à ce moment-là on n'est pas dans un état non plus de dépression totale.
Ah non, du tout.
C'est-à-dire en fait on réfléchit, on est vraiment dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on est super conscient que bah ça va pas. Visiblement nos méthodes sont pas top, puisqu'il y a
la
pratique elle est pas bonne, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait avec Jérémy à ce moment-là on se dit bah tiens, on va se poser parce qu'on a la même problématique, bah, pourquoi on en parlerait pas tous les deux, pourquoi on
trouvait du boulot, quoi, tout
ouais,
simplement.
Pourquoi on résoudrait le truc dans notre coin alors que visiblement on fait n'importe quoi.
Ouais,
on avait pas
assez de travail,
voilà, on avait beaucoup d'ambition mais
ouais, il y avait un gap,
pas les moyens de notre ambition là, visiblement.
Ouais.
Et
c'est toi qui as eu l'idée.
Ouais.
Enfin, de ce qu'on va parler juste après.
De ce qu'on va parler. Parce qu'en fait, voilà. Alors, moi, j'étais dans cette démarche-là, je me dire, voilà, bah, j'ai trop déconné avec les réseaux sociaux. À un moment, faut arrêter. Il faudrait peut-être falloir faire quelque chose. Et comme je suis toujours jusqu'au boutiste et que je suis complètement fou, je me suis dit, je vais me remettre aux réseaux sociaux, puis direct, je vais faire un challenge.
Ouais.
Voilà, direct. Je vais pas poster une image.
Bim.
Je vais faire direct un challenge. Parce que voilà, moi, j'aime bien être dans le côté, justement, sur super bon. Et donc, du coup, bah, comme j'avais pratiqué les arts martiaux, à la période juste avant ma dépression, donc là on remonte un petit peu dans le temps, mais j'avais pratiqué les arts martiaux et j'ai mis toute mon âme dans cette pratique. C'était à raison de trois entraînements par semaine, faire des stages le week-end, enfin c'était vraiment intensif, et notamment en plus de pouvoir aller au Japon, et dans ce voyage au Japon qui a été financé par le gros boulot que j'avais fait avec Illustrissimo, c'était aussi l'occasion d'aller voir le maître de la discipline que je pratiquais, enfin voilà, et tout était lié à ce moment-là. Et en fait, cette pratique-là que j'avais dû abandonner à cause de la dépression, ben je me suis dit, ben t'es trop bête. En fait, tout ce que t'as appris dans les arts martiaux, tu peux l'adapter complètement dans la vie de tous les jours, parce que c'est le principe. En fait, c'est le principe des arts martiaux, c'est de s'adapter. C'est une question de survie. Et en fait, selon les situations, il faut s'en sortir, quoi, d'une manière ou d'une autre. Et donc, la pratique des arts martiaux t'amène à être justement en capacité de répondre à ces problèmes de stress, de situations de blocage et compagnie, quoi. Voilà, il n'y a pas de méthode précise, mais en fait, on s'entraîne pour être prêt à. En gros, c'est ça l'idée.
Ouais.
Et je me suis dit, bah, avec Jérémy, on va s'entraîner à être prêt à répondre à des commandes. Et pas bah, pour ça, on va se faire un challenge tous les deux et on va le faire de façon très martiale.
Ouais.
C'est-à-dire que tous les jours, eh ben, on va se forcer en fait à faire une image en une heure.
C'est ça.
À la poster.
Ouais.
Et recommencer le lendemain. S'est dit, peut-être le week-end, on va se calmer. Donc,
oui,
du coup,
oui.
Ça fait cinq fois par semaine.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, l'idée, c'était de se dire, bah, comme on n'est pas bien, ben on va le dire. Donc du coup, on va parler de l'humeur qu'on a tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout quelle humeur on va avoir le lendemain. Donc en fait, on prévoyait aucune image à l'avance, non. Même si les idées, on peut pas les empêcher de venir. Ouais. Mais on se disait chaque jour, bah, dans quel état je suis.
C'est ça.
Et il fallait faire l'image en fonction de l'état dans lequel on était.
Moi, du coup, pour faire une mini boucle sur la toute première question, pendant cette période-là, je me couchais le soir en réfléchissant à ce que j'allais faire le lendemain matin. Mm. Et le matin, je me levais avec une vraie motivation parce que je savais ce que j'avais à faire. Je devais faire mon illustration en une heure du jour. Ça m'aidait vraiment en fait à sortir du lit parce que c'est sûr que dans les périodes où c'est compliqué, parfois pour trouver la motivation, on peut être un peu pris dans une sorte de d'engrenage un peu négatif.
Oui, mais c'est ce cercle vicieux en fait.
Et alors, comment on l'a intitulé ?
Et on l'a intitulé le Ninja Project.
Le Ninja Samurai Project.
Voilà, et Samurai Project après.
Ouais.
Pour vraiment bien expliquer le pitch de départ. Donc moi, qui suis intéressé par les arts martiaux japonais, j'ai proposé à Jérémy de travailler en fait sur une espèce de code de samouraï en fait, le code de l'illustrateur. Mais attention, hein, c'est pas du tout une espèce de code magistral, c'est notre code à nous.
Ouais, ouais.
Le code qui fait que nous on va pouvoir avancer. Donc en fait, je me suis plongé dans l'Agakure en fait, qui est c'est le livre en fait que lit le héros du film Ghost Dog de Jim Jarmusch. Mm-hmm. Qui jouait parfois à suite écart. Et donc c'est ce livre-là en fait qui a été écrit à l'époque Edo par un samouraï et par son disciple qui a référencé en fait tous les codes en fait du travail de samouraï. Il faut comprendre que le code du samouraï était lié aussi à la forme du pays dans lequel il a été créé, puisque le Japon est une île. Donc en fait, c'est facile de créer un code dans un endroit où il y a les frontières, c'est de l'eau. tu n'as pas de soucis avec des armées étrangères. C'est en fait le code se fait en fait dans tout le pays. Donc il y a forcément une logique derrière qui peut être un petit peu biaisée et d'ailleurs en fait à l'époque Edo en fait le fameux code du samouraï était tellement dévoyé qu'il avait plus aucun sens. Il y a un superbe film en fait qui parle de ça, qui s'appelle Harakiri de Masaki Kobayashi des années 50, qui parle vraiment de ce principe en fait du code du samouraï qui a finalement peu de valeur si derrière en fait l'humain n'est pas présent. Mmh. C'est-à-dire un code sans humanité ne sert à rien du tout.
Oui.
Et donc nous, ce qu'on a mis, c'était vraiment un code avec de l'humanité derrière. C'était vraiment le principe. Et donc du coup, pourquoi ninja, pourquoi samouraï ? Parce qu'en fait, le ninja, c'est l'art en fait de l'endurance, de l'adaptation. Donc ça, c'est une chose. Et samouraï, c'était le fameux code martial en fait avec des voies à suivre bien bien spécifiques. Et en fait, on voulait avoir ces deux approches-là, être à la fois capable de s'adapter et à la fois capable d'être entraîné à répondre à des situations.
Totalement.
Voilà.
On va faire avec vous un petit débrief en fait de ce projet, parce que ce projet, on l'a débuté, je crois, en janvier 2018.
Voilà, en fait, on était parti pour en faire 100,
ouais.
Non, ça a arrêté dans les 50, pour des bonnes raisons.
Vers la fin Ouais, pour des bonnes raisons, exactement. Et du coup, on avait un peu reporté un peu cet épisode, parce qu'on voulait le faire quand on est arrivé à 100, finalement, bon.
On n'a pas pu.
On a été rattrapé en fait, par les fruits de ce projet.
Voilà, c'est ça.
Mais avant de vous parler de ça, chacun de nous, en fait, on a 5 points. Peut-être qu'ils vont se croiser, on ne sait pas encore trop, mais on voudrait débriefer un petit peu de ça. Donc vas-y Laurent, ton premier point, ce que tu as tiré comme leçon de...
Voilà, en fait, voilà, ça va être 5 leçons, peut-être que j'en donnerai plus. On va déjà partir sur 5.
Ouais.
La première leçon, je ne l'ai pas appris en faisant le Ninja Project, mais je la connaissais déjà avant, mais le Ninja Project m'a prouvé que ça fonctionnait, c'est qu'en fait, il faut accepter de prendre des casseroles. Faut accepter en fait de prendre des coups et de se retrouver à terre. Et il y a rien de tel que se relever et de continuer en fait. Parce que c'est la fameuse phrase de Nietzsche. Hein, voilà. Je vous la dirai pas en allemand. Je l'ai oublié en allemand. Mais ce qui vous tue pas vous rend plus fort.
Ah oui.
Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que de toute façon il y a pas de raison de baisser les bras et d'abandonner, parce que de toute façon il y a dans toutes les failures, dans toutes les erreurs, dans tous les obstacles qu'on peut rencontrer, il y a quelque chose à apprendre. Et sur lequel en fait progresser. Mmh. Je prends toujours l'image en sport, une équipe qui gagne tout le temps, eh ben en fait elle a aucune motivation, elle n'arrive pas à gagner. Et on voit souvent ça par exemple en football, une équipe qui est championne du monde, elle va complètement se planter la compétition suivante parce qu'ils ont déjà gagné quoi. Ils ont plus la soif de vaincre. Alors qu'une équipe qui prend que des casseroles, ils ont qu'une envie, c'est d'être meilleur, quoi, parce que ils ont pas envie qu'on dise qu'ils c'est des losers toute leur vie, quoi. Et il y a beaucoup d'exemples dans le sport, et notamment il y a une super série, si vous pouvez voir sur Netflix, qui s'appelle Losers, et je vous recommande chaudement cette super série. En fait, je crois qu'il y a 8 épisodes qui parlent à chaque fois en fait d'un sportif ou d'un groupe de sportifs en fait à qui arrivait justement cette problématique de la lose et comment ils ont fait pour s'en servir. Donc le fait justement d'être perdu, d'être dans le caca, pour faire quelque chose d'exceptionnel et donner du sens en fait à ce qu'ils font, et notamment dans la pratique du sport. Et il y a notamment un épisode sur Surya Bonaly, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu son histoire. Donc voilà, donc première leçon c'est ça, c'est-à-dire si si vous retrouvez à terre, bah il faut vous relever et c'est super important.
De toute façon, c'est un peu l'idée, quand t'es tout en bas, tu ne peux que remonter.
Quoi. Exactement quoi, mais encore faut-il se relever.
Ok, moi le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est le mouvement appelle le mouvement. Je trouvais ça assez incroyable, c'est-à-dire que t'as pas de boulot, tu en crées toi-même. Et c'était cet entraînement qu'on a initié tous les deux. Et puis moi, j'ai pas fait les arts martiaux, donc c'était pas quelque chose que je connaissais forcément. Et puis cette mise en situation de faire comme si. Et en fait, moi, je me souviens que pendant cette période du Ninja Project, on était tous les deux très très productifs, notamment sur les réseaux sociaux. Et je sais que d'extérieur, ça donnait l'impression de « Oh, dis donc, ça dépote en ce moment, hein, tu bosses à fond, etc. » Et en vrai, oui, c'est vrai, je bossais beaucoup, mais ce que les gens savaient pas forcément, c'est parce que j'avais pas forcément beaucoup de travail à ce moment-là. Et c'est le fait d'avoir moi-même enclenché un mouvement qui, par la suite, on y reviendra, m'a apporté du travail et aussi m'a mis dans une dynamique complètement nouvelle, et aussi en termes de visibilité, tout ça. Donc, plus de nouvelles idées, de nouvelles méthodes de travail. En fait, le mouvement, c'est le mouvement de la vie, quoi, en gros. C'est, voilà.
Oui, complètement. Du coup, dans les arts martiaux, ça s'appelle le mouvement naturel. C'est la façon dont on doit pratiquer. C'est-à-dire que si les techniques sont faites de façon robotique et sans conscience, elles valent rien, quoi. C'est-à-dire que ça sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est vraiment, à un moment, quand t'as pratiqué longtemps, c'est laisser parler forcément le mouvement, quoi. Parce que c'est le mouvement qui va attirer le mouvement, qui va faire que une technique va bien passer, quoi, en fait.
Ouais. Et puis ça devient un réflexe aussi. C'est naturel, quoi. Le mouvement, tu le connais, quoi.
C'est complètement ça. Et surtout que il peut se passer n'importe quoi. Je parle pas d'un street fight dans la rue, ça, de toute façon, ça arrive, démerdez-vous. Hein. Tout le monde réagit, je peux pas vous dire, j'en ai jamais eu moi-même, donc du coup, je vais pas la ramener là-dessus. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que dans la pratique des arts martiaux notamment, plus tu vas pratiquer ce mouvement-là, plus tu vas être amené à réagir de la bonne manière à quelque chose d'inattendu. C'est ça l'idée. Le mouvement naturel, c'est ça, c'est dire aux enfants, vas-y, joue, quoi. Et regardez un enfant quand il joue, il se pose aucune question.
Non.
Alors qu'un adulte, on s'en pose tout le temps.
Exactement. On se pose parfois beaucoup trop de questions. Mm. Et en se posant des questions, on se bloque, on se coince.
Et le mouvement n'existe plus.
Ouais. Et je me souviens que, le mouvement n'existe plus, exactement. Et moi, je suis quelqu'un qui cogite quand même pas mal. Et je me souviens que pendant qu'on faisait le Ninja Project, j'étais vraiment, je ressentais une sorte de sentiment de bonheur. Parce que, en fait, j'avais pas le temps de réfléchir. Déjà, j'étais jeune papa, donc en fait, la moitié de mon cerveau était
déjà
pris.
C'est ça, le cerveau, voilà, c'est bien. C'est une bonne situation.
Ma vie était devenue super chaotique, et donc j'avais moins de temps pour réfléchir, et le temps qui me restait, c'était pour être créatif, et je ressentais beaucoup plus de plaisir à juste faire que à réfléchir, ou oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, non, non,
et
boum, t'es parti.
Le mouvement, c'est l'action.
Ouais.
Le mouvement, c'est pas la réflexion.
Oui.
On peut pas être à la fois dans la réflexion et dans l'action. C'est strictement impossible. En fait, le cerveau est incapable de faire ça. Le cerveau, il switch, en fait. On est capable de le faire dans un temps très court. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. On peut passer de la réflexion à l'action en très peu de temps. Mais on peut pas le faire en même temps. Ça, essayez, vous pouvez pas le faire. C'est impossible.
Ouais.
Donc, du coup, ce switch-là, en fait, il est important. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'action, arrêtez de réfléchir, quoi. Faites-le.
C'est ça. Agissez. Juste vite.
Voilà. Ouais. C'est ce qu'on faisait tous les jours.
Exactement.
Fallait agir. Et on n'avait pas le temps de réfléchir.
Ah, non. Ok, donc du coup...
On a oublié de préciser, le challenge d'une heure, on l'a foiré et c'est par ma faute.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
que je mettais tellement de temps sur mes images, je voulais tellement bien les chiader, qu'en fait, on s'est dit, tant pis, on fait plus en une heure, on le fait.
Voilà. Ah, moi, je suis resté.
Mais hein. toi t'as fait à chaque fois une heure.
Moi, je suis très littéral. Enfin, non, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est vrai que je suis littéral. Mais ce qui est pas vrai, c'est que j'essayais tout du moins de rester... de me tenir à une heure.
Oui, à une heure, ouais.
Mais il arrivait très souvent que je lande vers une heure et demie, deux heures. Mais je pense que toi, ça dépassait.
Ah, moi, j'ai fait
ça.
Des journées sur des images, ouais.
Voilà.
Tellement j'étais, mais en fait, je me suis amusé. Donc,
oui.
C'était pas une contrainte.
Par le projet.
J'étais habité.
Ok, super. Donc, deuxième leçon que t'as apprise.
La deuxième leçon que j'ai apprise, et j'ai fait deux images, en fait, sur ce sujet-là. J'ai fait une image qui s'appelle The Benefits of Teamwork et une autre image qui s'appelle Brothers in Arms. Voilà, je pense que pour ceux qui parlent anglais, ils ont déjà compris. Pour les autres, je vais traduire. Donc en fait, c'est simplement le travail d'équipe. et le fait en fait d'avoir des frères d'armes. Ça pour moi c'est quelque chose d'hyper important parce que bah je peux pas dire que je l'ai jamais fait hein, parce que j'ai toujours cherché à collaborer ou à me rapprocher de certaines personnes dans mon univers de travail. Mais avec Jérémy, on a poussé la problématique beaucoup plus loin parce qu'en fait on était exactement au même stade de recherche l'un que l'autre, ce qui nous a permis en fait de pousser l'expérience beaucoup plus loin quoi. C'est-à-dire que j'étais pas face à un mentor, lui non plus, on n'était pas ni dans le sens inverse et du coup on a dû être des frères d'armes en fait sur ce travail-là, puisqu'en fait on se montrait pas les images avant qu'elles ne soient publiées. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout de regard là-dessus. Mais ce qui était super rigolo, c'est que des fois, on publiait des images et en fait, les images se répondaient. C'était hallucinant, quoi. Et du coup, on débriefait après. Mmh. Évidemment, tout ça, c'est du subconscient parce qu'on a certainement dû se filer des trucs entre-temps. Mais il y avait quand même cette magie-là de se dire, bah, merde, quoi. On parle la même chose, quoi. C'est génial.
Bah, on vivait la même chose. Voilà. Et puis, on le traduisait visuellement. Chacun dans notre
style. Dans son style,
différent.
Ouais. C'est ça.
On collaborait, mais pas graphiquement, en fait. On collaborait de manière,
En débrief.
On débriefait, c'était les grandes discussions philosophiques.
Oui, voilà,
ou
ça,
stratégiques.
Ça dépassait complètement. En fait, Jérémy le faisait moins, moi je le faisais un peu plus. C'est-à-dire que moi je mettais un petit peu plus de blabla sur mes descriptions Instagram, parce que j'avais besoin en fait d'expliquer la démarche martiale qu'il y avait derrière, ou alors le rapport à la référence, souvent des références japonaises, mais il y a eu aussi des références à d'autres cultures. Et mais du coup, là, ce qu'on mettait pas dans Instagram, on en parlait beaucoup, beaucoup à côté.
Mais moi, ça me faisait un bien fou. Bah, c'était un de mes points, donc on avait le même point. Mais ce qui me faisait énormément de bien, c'était de savoir que, un, j'étais pas tout seul, et deux, que je pouvais... On s'appelait hein, presque tous les jours et on parlait des choses qu'on avait découvertes ou découvertes. Et aussi, par exemple, les challenges qu'on avait rencontrés. Prenons, soudainement, j'ai un taf. Comment je fais pour maintenir le Ninja Project avec un taf? Ça paraît désuet dit comme ça maintenant, mais en fait, à ce moment-là, il y avait un vrai enjeu. Il y avait aussi les découvertes graphiques qu'on faisait. C'est-à-dire que, notamment moi, je voulais me tenir à 1 heure. J'ai dû développer des nouvelles techniques pour travailler beaucoup plus rapidement. Et en fait, ça m'a donné énormément confiance en moi. Alors mes capacités, moi de base, je suis quelqu'un qui me considère comme quelqu'un qui fonctionne de manière assez lente. Aujourd'hui, je ne dis plus ça comme ça, mais et en fait, j'ai pris confiance en moi, c'est-à-dire que à cause de l'urgence, parce que ça reste un projet perso, donc on pouvait pas non plus y passer trop d'heures. Et en fait, j'ai été plus efficace et j'ai pris confiance en moi. Je me suis rendu compte que je savais travailler plus vite. Et j'ai découvert des techniques qui m'éclatent beaucoup plus et que j'utilise encore toujours aujourd'hui dans mes commandes professionnelles. Donc ouais, en fait, quand on est un peu pressurisé, on a besoin de trouver d'autres moyens. Bref. Et donc du coup, en fait, on s'en parlait.
Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est ça. Puis en fait, la leçon à retenir, c'est qu'en fait, on peut faire du travail d'équipe sans travailler sur la même chose. Et ça, c'est... Enfin, ouais. On travaille pas sur le même travail ensemble, mais on peut faire un travail d'équipe quand même. Donc en fait, ça arrive maintenant... Très souvent, je parle de mon travail à Jérémy, il me parle de son travail, on se donne des tips, et puis on avance comme ça. Des fois, il sait pas pour une couleur, il dit, bah, Laurent, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je dis, bah, tiens, peut-être comme ça, ce serait pas mal. Il dit, ah, merde, j'avais pas pensé. Puis hop, il le fait. Puis moi, c'est pareil, si j'ai un petit doute sur un truc, je lui dis aussi, puis il me donne aussi son conseil. Et puis, bah, du coup, bah, le travail d'équipe, il existe. On n'est plus tout seul dans notre coin.
On n'a jamais fait une illustration à quatre mains, sauf pour l'illustration de cet épisode, justement, pour un peu marquer le coup.
Voilà.
C'est Laurent qui s'est collé à la typographie en
mais parce parcelle. Qu'on n'en a pas besoin. Voilà. On n'a pas besoin de le faire, en fait, de travailler sur la même chose.
Et puis, on a des styles et des approches
différentes. Quoi qu'il arrive.
Mais c'est plus la philosophie un peu martiale derrière qui nous a, moi, que j'ai découvert. Puis, on s'apporte l'un l'autre chacun.
Oui,
peu
et puis, attention, faut bien comprendre aussi que, voilà, moi, j'ai apporté ça à Jérémy, mais lui, il a une méthodologie qui est hyper intéressante aussi, notamment sur la forme des réseaux sociaux. Et je pense que dans son podcast, il a bien expliqué jusque là, même s'il a encore plein de choses à dire dessus. Et, il est assez incroyable. Donc, du coup, voilà, c'est pas pour rien que le podcast, il fonctionne bien. Je pense qu'il, il sait mener sa barque. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses, au contact de Jérémy.
Merci Laurent.
Ah, travail d'équipe.
Ouais, exactement. Du coup, vu que moi c'était mon point, le même point, tu peux aborder ton point suivant.
Le point suivant, ah oui, alors, celui-là je l'aime bien, c'est que le meilleur plan de bataille, c'est de pas avoir de plan de bataille du tout.
Ouais, voilà. C'est complètement...
En fait, c'est très paradoxal. C'est-à-dire que c'est important de partir préparé à la guerre. Parce que si tu pars pas préparé, l'ennemi va te défoncer la gueule. Hein. Il y a pas d'autre mot. Et quand je parle de la guerre, hein, c'est une analogie pour dire, la guerre c'est le travail. Et vous savez que de toute façon, on est dans un contexte où il y a pas de la place pour tout le monde. Je suis désolé de le dire, hein, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que ceux qui ne se donnent pas les moyens, ils ne pourront pas y arriver, à moins d'un miracle, à moins d'une connaissance. Merci d'avoir rencontré mon père. C'est grâce à lui que je suis connu. Voilà. Tu vois ce genre de truc. Voilà, si tu te donnes pas les moyens, il y a plein d'autres gens qui vont se les donner. Il y a des gens super bons, super doué, super plus jeune que toi, il y en a plein. Et voilà, donc si t'es pas prêt à faire cette guerre-là, c'est super chaud, quoi.
Mais donc, préparer à faire la guerre, mais pas, sans plan de bataille.
Sans plan, pourquoi ne pas préparer le plan de bataille? Parce que quand t'as un plan de bataille, ça veut dire que t'es déjà sûr de la façon dont ça va se dérouler. En fait, l'ennemi, il a prévu des plans aussi.
Oui.
Donc ça, l'ennemi, c'est le chaos, c'est l'inconnu, c'est les données que tu n'as pas encore, en fait. Et c'est-à-dire que tant que t'as pas l'ennemi en contact visuel, hein, ce qui se passe sur un champ de bataille, eh ben tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc des généraux comme Napoléon ou d'autres personnes comme ça, en fait, ne fonctionnaient avec aucun plan de bataille. C'est juste des gars, sur le moment, ils se disaient, bah tiens, on va faire ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont remporté les grandes guerres. Donc, ne faites pas la guerre, c'est pas bien, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a la philosophie des arts martiaux, c'est tout ce qui a été appris sur les champs de bataille a une raison, une signification, un sens. Et pourquoi il y a eu des guerres? C'est pour avoir la paix. Hein, c'est souvent pour ça qu'on fait la guerre, c'est pour qu'il y ait une paix. Donc des fois c'est pas pour les bonnes raisons, mais en tout cas c'est la raison de la guerre, c'est pour qu'il y ait la paix. Donc voilà, donc si on est capable de comprendre cette philosophie là, et ben en fait on peut l'adapter dans la vie de tous les jours. Et du coup, ben forcément, ben le fait de prévoir sans prévoir, c'est la meilleure des stratégies.
Mais tu veux dire que ça c'est l'aspect ninja, c'est-à-dire t'adaptes à chaque situation.
Ah oui, ok, d'accord, je vois ce que tu as.
Ouais, enfin c'est cette flexibilité.
Oui, la flexibilité.
Parce que si tu prévois tout, de toute façon ton scénario il va pas se tenir parce que.
Ben non, il arrive toujours. Ben non, shit happens. Donc,
shit happens. Mais je dis ça parce que moi je sais, tu le sais, de base je suis quelqu'un qui aime bien anticiper les choses et. Bah, notamment cette situation compliquée, je l'avais pas du tout prévu et j'ai dû m'adapter. Donc s'adapter en tout temps, le ninja il a cette flexibilité justement. Mais toi, est-ce que tu l'as découvert à travers le Ninja Project? C'est quelque chose qu'en fait tu... Non, j'imagine que avec les arts martiaux.
Oui, mais non, ça c'était déjà ancré. Mais non, mais ça voilà, là c'est un peu pipier parce que c'est quelque chose que j'avais déjà acquis en fait.
Ouais.
Sauf que j'ai déjà acquis, c'est vrai que...
Tu fonctionnes comme ça tout le temps?
Ouais, en fait, moi, j'ai une relation au chaos qui est très particulière parce que j'adore bosser dans l'urgence.
Ouais.
Je suis la plupart du temps, très en retard sur mes boulots parce que je passe beaucoup de temps sur mes boulots. Donc, ce fonctionnement-là est complètement, suicidaire. Mais, comme je l'ai accepté, j'étais comme ça.
Ouais.
Parce que c'est important d'accepter qui on est.
Ouais.
Bah, ça se passe vachement mieux. Parce qu'en fait, avant, j'avais un gros problème avec ça. C'est-à-dire que j'étais en colère, de pas réussir, à temps, de pas bien faire les choses. Et puis finalement, j'ai foiré des boulots à cause de ça, quoi. Parce que j'étais pas souple, parce que j'étais rigide sur ma façon de réagir, sur ma façon de faire les choses, alors que maintenant en fait j'ai accepté que bah ça va être le chaos, parce que je suis incapable de gérer les choses en amont complètement, et le fait d'être prêt à ne pas être prêt, ça m'a vraiment sauvé la mise.
Mais tu dis que t'étais rigide, mais au final t'es souple, enfin.
Oui. Mais parce que j'ai eu ce travail.
Ah t'as accepté, oui.
J'ai
oui.
accepté ce travail-là sur moi-même.
Okay.
Je n'ai pas tout le temps été comme ça.
Donc, on pourrait dire, en gros, définir le cadre.
Oui.
Mais une fois que tu es dans le cadre.
Il faut être capable d'être
prêt. Improvisation.
Improvisation.
Du jazz.
Voilà. Bah, ouais. Enfin, voilà. Tu répètes tes gammes. C'était pas obligé de faire du jazz, mais tu connais tes gammes, quoi. Tu viens pas. Mais ce qui va se passer, bah, tu t'adaptes, en fait.
Tu t'adaptes.
C'est pas forcément l'impro, hein.
Non. Non, je vois ce que tu veux dire.
Ceux qui font de l'impro sont très forts, hein, parce que ça va même au-delà de l'adaptation. Ils sont capables carrément d'emmener des gens dans la.
Ils ont en fait une pléthore de boutons sur lesquels appuyer.
C'est ça. Ouais.
Pour s'adapter à la situation.
Un bon improvisateur, il fonctionne avec une console avec des boutons et hop, ça démarre un bouton. Ah bah tiens, je peux dire ça. Ah bah tiens, je peux dire ça. Ah bah tiens, et ça va rebondir comme un cadavre exquis en fait.
C'est ça.
Voilà, complètement maîtrisé, mais en même temps complètement chaotique.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Ça va beaucoup plus loin que le simple fait de non, n'y allez pas. Allez-y les yeux
fermés.
C'est
un petit peu cosmique, hein, ce qu'on dit là. Voilà, c'est un petit peu cosmique, mais en fait dans un boulot, bah c'est vraiment ça. C'est-à-dire que voilà, vous démarrez un boulot, vous pensez que ça va se passer de telle ou telle manière, puis tout d'un coup il y a une tuile, il y a un truc à faire, un changement, quelque chose que vous avez pas prévu. Ça peut très bien être. En fait, vous avez répondu à la commande et tout d'un coup le client en fait il change complètement d'avis, il veut complètement autre chose. Et ça arrive. Hein.
Ouais,
et bah qu'est-ce que tu fais? Tu dis va te faire foutre pauvre con, ou tu dis bah non, au contraire, bah je suis un professionnel et pourquoi il irait se faire foutre? C'est le client.
Oui. Si t'es professionnel,
t'adaptes. Voilà, et tu t'adaptes et t'acceptes. Là, tu râles pas, tu le fais. Et bien évidemment, faut pas accepter n'importe quoi, mais tu mets des limites. Et en fait, t'apprends à mettre les limites avant le boulot.
Ah, les limites, c'est super important.
Eh ben oui, vous pouvez pas dire à quelqu'un, pas de souci, dis-moi ce que tu veux, je vais tout te faire. Ben non, c'est pas possible. Il faut lui dire, moi, je fais ça, mais là, c'est la limite. Je peux pas faire ça. La personne le sait.
C'est se respecter aussi.
Le deal est fait. On se respecte, tout le monde se respecte. Et au final, bah, le boulot se passe vachement mieux.
Et tout le monde est content.
Et c'est des erreurs de débutants, souvent.
Ouais, et puis c'est normal parce qu'on a envie de
faire, ouais, de
faire plaisir.
Ouais, puis de faire le kite, quoi.
Mais en fait,
tout faire.
En fait, c'est pas vrai.
Ben non, c'est pas vrai.
Ouais, il faut avoir une bonne question.
Faut être conscient
de
ça, ouais. Voilà.
Alors,
pour cette leçon.
Ouais, j'ai trouvé que c'était une super manière de documenter mon vécu. Et aussi, on se rendait compte, toi et moi, que nos illustrations se répondaient parfois. Je pense que des moments difficiles, on en vit tous, artiste ou pas artiste.
Ah oui, bien sûr.
Mais en tant qu'artiste, on a cette capacité ou cette possibilité, si on veut bien l'apprendre, de d'exorciser quelque part une difficulté, un mal-être, une souffrance, etc. Et au plus le temps avance, au plus c'est un sujet qui est cher à mon cœur, le fait de transformer en fait la douleur en quelque chose de créatif. Et ça te permet d'avancer aussi, parce que tu te vois avancer. Ouais, quoi?
La douleur est une information.
Exactement, ouais.
La souffrance, c'est pas bien. Parce qu'en fait, la souffrance et la douleur, c'est différent.
Vas-y, développe.
Alors en fait, la douleur vous donne une information, hein, c'est ce qu'on apprend aux arts martiaux aussi. Hein. Donc la douleur vous donne une information, c'est normal d'avoir mal. Hein, on prend un coup, on a mal.
Ouais, voilà.
Mais si on n'a pas compris que le coup suivant, ça va faire la même chose, et qu'on n'esquive pas ou qu'on cherche pas à prendre la distance, bah là, on va commencer à souffrir parce qu'on va se reprendre un coup et on va se reprendre encore un coup. Et ça, c'est la souffrance. La souffrance, en fait, c'est quand on se laisse aller dans la douleur.
Oui.
Voilà.
Et ah, mais c'est super bien vu.
Ouais. C'est pas la même chose. J'ai mal et je souffre. Donc, c'est pas la même chose.
C'est quelque part reconnaître la douleur, parce qu'il faut pas la nier, mais c'est réagir suffisamment tôt pour que ça ne se transforme pas en souffrance.
En souffrance, parce que une fois qu'on est dans la souffrance, après, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir. Donc, la douleur est une information.
Des sacs de nœuds.
Voilà, exactement.
Ah, mais c'est super intéressant.
Ça, c'est, ça, je pense, c'est vachement important.
Cette nuance-là, je l'avais pas encore
vu. C'est une nuance qui est importante. Ouais.
Et on pourrait dire que le processus créatif s'opère entre la douleur et la souffrance. Avant que, c'est une sorte de pansement, mais,
Voilà, c'est ça. Et attention, là, on est en train de parler de douleur et de souffrance.
Oui, c'est toute proportion gardée, ça va.
Psychologique, on n'est pas dans des pathologies compliquées, ou alors vraiment une vraie souffrance physique, quoi.
Mais c'était important pour nous.
Mais oui, voilà. Toujours à mettre dans la perspective et la métaphore du travail. Bah, voilà, il y a des fois le travail est un peu douloureux, mais n'en faites pas une souffrance, quoi.
Oui, ça. Mais je sais que pour moi, notamment à l'époque, vu que ça faisait 6 ans que je plaçais mes dominos, c'est comme ça que j'appelle ça, et j'étais prêt à raccrocher parce que pas de thunes. Comme on le dit, franchement, toute proportion gardée, c'est rien. J'avais un toit sur ma tête,
c'est ça.
À manger, des amis, tout ce qu'on veut, une bonne situation. Mais c'était un peu la mort dans l'âme que j'étais eu au téléphone. Et je t'ai même dit, bon, bah, je pense que je vais chercher un mi-temps ou un plein temps. Et ça, c'était dur à vivre. Mais bon, on est d'accord. Mais bon, malgré tout, n'empêche que qui que ce soit, toute proportion gardée, on a besoin de rebondir, quoi. Et je trouve que une sorte d'autofiction, c'est un super moyen d'exorciser nos obsessions, les trucs qui nous gavent, ou aussi, au contraire, ça peut aussi être les trucs qui nous font trop triper, les trucs qu'on kiffe grave. C'est en fait créer des sortes de projets personnels sur les sujets qui nous importent et de les montrer, en fait, gratuitement. Notamment, nous, on l'a fait sur les réseaux sociaux. C'est un bon moyen d'attirer l'attention, en fait. En fait, c'est tout le monde est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que toi, tu sors de ton système quelque chose qui est important pour toi, que ce soit drôle ou pas drôle.
Oui.
Tu le transcendes.
C'est l'humeur de la journée.
C'est l'humeur de la journée, c'est ce qu'on s'est
dit. Des fois, c'est pas drôle. Des fois, c'est très drôle.
Ouais. Et puis, parfois, on vivait la même chose. Et puis, parfois, pas. Et du coup, on pouvait se mettre des tapes sur le dos et tout.
Ouais, puis, des fois, c'est, les échos, ils se font à plusieurs jours d'intervalle aussi.
Ouais. Ouais, exactement, ouais.
Ah, bah, tiens, t'étais dans le mood là il y a 2 jours. Bah, ça y est, moi, j'y suis.
Ouais.
Je comprends mieux ton image.
Vas-y.
Attention, on va rentrer dans du très cosmique.
Il faut savoir que Laurent et moi, on adore trop parler en termes un peu cosmiques.
Voilà, oui, complètement. Et pourtant, on partage pas du tout les mêmes croyances. C'est ça qui est rigolo. C'est aussi pour ça que les discussions sont riches, quoi.
Absolument.
On est intéressé par le propos de l'autre. Alors, la leçon, on est à la 4e leçon, peut-être.
Je pense que, ouais, 4, 5, ouais. En tout cas, ouais.
En tout cas, on en a fait plein. Voilà. La leçon, en fait, c'est en fait, il existe, en fait, un équilibre, dans toute chose. C'est-à-dire que l'univers est conçu sur un équilibre, mais c'est pas un équilibre qui est statique. C'est pas un équilibre figé. Et en fait, la nature, elle opère toujours un système de balance.
Ouais.
C'est-à-dire que elle s'arrange toujours pour contrecarrer l'extrême, en fait. Elle essaie toujours d'équilibrer. Mais comme c'est une balance, bah, elle est toujours en mouvement. Elle est jamais fixée au milieu, quoi. Voilà. Et donc, ce qui se passe, en fait, on peut pas être constant dans son travail. C'est impossible. Il y a des moments où on est on fire. Ça sort. Les images, elles arrivent. On les a. Et puis, il y a des moments, bah, c'est la feuille blanche, quoi. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est nul. J'arrive plus à rien faire. J'ai déjà fait ça. Pourquoi je le refais? C'est nul. Ben, voilà. Du coup, bah, c'est de trouver cette conscience-là de l'équilibre. Dire que, bah, ok, d'accord, cette semaine, je suis pas dedans. C'est pas grave. Ça va revenir.
C'est pas grave.
Ça va revenir. En fait, faut pas se prendre la tête. Et c'est aussi une question stylistique. Souvent, voilà, on accorde beaucoup d'importance au style. Mais en fait, votre style, il va évoluer au fur et à mesure des années. C'est impossible, quasiment, d'avoir la même patte stylistique. À moins d'avoir vraiment trouvé le truc, mais vous savez que, enfin, je pense que même pour ceux qui ont peu d'années de travail derrière vous avez déjà vachement évolué, quoi. Donc ça continuera. En fait, ça s'arrête jamais. Puis vous aurez toujours envie de faire quelque chose de nouveau. Vous pourrez pas vous contraindre à faire la même chose toute votre vie. Donc en fait, c'est vachement important. Et moi, je vous le dis parce que j'ai essayé de le faire.
Alors... ça s'adresse à vous directement.
Voilà. Non, j'ai. Non, mais c'est... enfin, ouais, je parle aux auditeurs qui s'interrogent en fait sur, ouais, sûr, sur ouais, le ouais. démarrage de l'activité d'illustrateur ou de créatif. Et ne vous mettez pas dès le début une espèce de règle comme ça qui fait que mon style doit être comme ci, comme ça et pas autrement. C'est bien, c'est vachement important de savoir ce que vous voulez, mais ça va évoluer. Donc en fait, quoi qu'il arrive, vous allez être remis en cause par vos propres travaux, ouais. vos propres expériences. Donc ça, c'est super important. Et l'autre partie en fait de cette leçon-là, il y a cette histoire de balance dans l'univers, mais aussi l'histoire du vide. En fait, l'univers est constitué principalement de vide. 99,99. Voilà. C'est comme ça. La matière elle-même, en fait, elle est complètement improbable puisqu'en fait, c'est des atomes qui se touchent pas. Donc, en fait, quand on touche quelqu'un, on le touche pas. Puisque c'est les atomes qui se frottent. Donc, il y a toujours un champ d'énergie, en fait. Physiquement, c'est impossible de toucher quelque chose. Nous, on a notre langage d'humain, d'être humain, à notre échelle qui fait, bah oui, moi, je touche du bois, là, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais en fait, tu touches jamais le bois puisque tu touches l'énergie qu'il y a entre toi et la matière du bois, en fait, entre les atomes.
On vous avait prévenu, hein, c'est un peu cosmique.
Oui, c'est très cosmique. Donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que, en fait, les pauses, les histoires de temps entre quelque chose et quelque chose d'autre, c'est aussi important que les moments où vous remplissez quelque chose. C'est comme en bande dessinée ou comme
l'ellipse.
Voilà, c'est l'ellipse. L'ellipse est hyper important. En fait, dans tout ce que vous faites, mettez des ellipses. Voilà, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, acceptez les ellipses.
Et c'est comme la marche en fait, un pas. Alors, il y en a toujours un qui est en déséquilibre.
Il est fort, Jérémy. Il a compris.
Pourquoi c'était ton point suivant ou...
Non, mais c'est ça.
Oui, bah c'est ça. Ouais, en fait, équilibre, déséquilibre. On en revient toujours. On pourrait presque dire que l'équilibre, c'est le déséquilibre, et le déséquilibre, c'est l'équilibre.
Et il y a tout ça parce qu'il y a du vide. Voilà. Et si vous avez compris qu'il y avait du vide, bah, vous allez accepter, en fait, de pas tout remplir. Voilà. Vous allez accepter. Ah oui. Peut-être dans vos images, bah, au lieu de vouloir toujours tout gérer, tout figer, bah, peut-être des fois, il y a une erreur qui va faire, ah ouais, l'erreur là, elle est nickel, en fait, je la touche pas, quoi.
Je me souviens aussi quand on était aux études, mes profs, parfois, disaient, n'ayez pas peur du vide.
Ah oui, pas peur du vide et pas peur des ratures. Parce qu'en fait, bah, c'est de ces micros erreurs que va sortir le petit coup de, ce qu'on appelle le petit coup de génie, en fait, qui vient comme ça, quoi. On l'appelle pas, il arrive.
C'est quoi la phrase là de Leonard Cohen, there's a crack in everything, that's where the light comes in. Pas mal,
pas
hein.
Pas mal, ouais, c'est ça. C'est pas mal.
Mais oui, et aussi d'accepter les moments de vide. On n'est pas obligé d'être toujours au.
Là, je parlais du travail.
Non, bien sûr.
Je parlais du travail sur la feuille ou sur la tablette, mais en fait, il y a ce moment-là où je parlais avant, où justement, voilà, il y a des moments, il y a rien, et des moments, il y a plein de choses.
Ouais.
Voilà, c'est comme ça.
Et d'accepter les moments. Alors évidemment, c'est pas obligé de.
Ça va revenir, ça va disparaître.
C'est avoir confiance en l'équilibre des choses, en fait.
Voilà, la leçon, c'est ça. C'est vraiment conscience et confiance.
C'est ça. Mmh. Alors moi, mon dernier point, c'est la discipline. Mmh. Alors on va dire, je pense que de base, je suis quelqu'un...
Bon, t'es pas mal discipliné.
Je suis pas mal discipliné.
Je confirme. Il est très discipliné.
Mais malgré tout, notamment dans le cadre du Ninja Project, le deal qu'on avait passé, toi et moi, c'était pas le choix. Un dessin par jour, du lundi au vendredi, en une heure. Bon, comme on l'a dit, on est flex. On est indulgent.
Voilà, on a un peu.
Je veux dire, moi, il y a eu plusieurs moments où je pouvais pas dessiner parce que des circonstances familiales, des trucs de ce genre-là. Et on n'était pas là à fliquer l'autre en mode.
Non. Puis moi, il y a des fois, j'ai rattrapé deux dessins en un jour parce qu'à un moment, c'était chaud, mais parce que je voulais absolument aller les rattraper. Donc, du coup, j'avais un ou deux de retard sur toi à la fin, je pense, tu vois, comme ça.
Mais le fait d'avoir bien défini ce cadre.
C'est pas grave, quoi.
Ben, c'est pas grave. Mais ça donnait une vraie direction et aussi je parlais du mouvement tout à l'heure, en fait, c'est cette discipline. En fait, au bout d'un certain temps, cette discipline devient complètement naturelle. Et je crois qu'à la fin, voilà, ça peut être un peu la boucle de ce passage-là, du débrief du Ninja Project. Quelque chose qui n'est pas naturel, à force de discipline, devient naturel. Mmh. Et en situation, tu passes de l'entraînement au combat,
c'est ça.
À la commande. Mmh. Ben, en fait, c'est comme pendant l'entraînement, c'est pareil. Et ça, c'était super. Et du coup, en fait, notre projet, tu veux encore
projet? Justement, j'allais rebondir sur ce que tu venais de dire, en fait. Bah, c'est absolument incroyable. Alors, ça a plus vite fonctionné pour Jérémy que pour moi, parce que Jérémy avait justement, en fait, l'histoire du podcast, qui était déjà en branle et.
C'était dans les balbutiements.
C'était dans les balbutiements, mais il y avait ce projet-là qui allait arriver. De toute façon, on en avait discuté. On savait que c'était intéressant parce que ça partait aussi de la démarche de Andy, en fait, au départ. Et de se dire, comment lui, il a fait, quoi. Comment il en arrive à ce niveau-là.
On a décortiqué quelques personnes qu'on admirait, genre, comment ils ont fait, quoi.
Donc voilà. Et Jérémy, vous laisse lancer le podcast. Et moi, je l'ai absolument encouragé parce que moi, je connaissais un petit peu aussi l'univers-là pour en avoir fait un petit peu sur les jeux vidéo. Je sais que voilà, c'est du taf, mais c'est vraiment très valorisant de finir un épisode, de le release et puis d'avoir des gens qui commentent. Enfin, c'est
clair.
C'est vraiment, c'est un super plaisir, quoi. Donc voilà. Donc en fait, d'avoir fini ce Ninja Project absolument sans explication, le mouvement dont tu parlais, il a amené le mouvement.
Ouais.
Et c'est-à-dire qu'en fait, même trop de mouvement. En fait, simplement, on a mis en pratique ce qu'on disait et l'univers, en fait, il nous a répondu. Mais alors, ça peut avoir un côté pareil, encore super cosmique, mais sincèrement, moi, je l'explique pas. Parce que j'ai pas changé ma façon de travailler. Enfin, c'est pas vrai. Si, je l'ai fait quand même. Mais mon pixel, ça reste mon pixel.
Oui. Voilà. Le médium n'a pas changé, mais la façon de.
Mais je pense que j'ai débloqué des choses. Mais personne l'a vu que j'avais débloqué des choses. J'ai pas été voir quelqu'un pour lui dire que j'avais débloqué des choses. Puis même le Ninja Project, j'ai pas fait des milliers de vues avec. Enfin, mais ouais. C'est incroyable.
Mais il y a pas une citation comme ça, je pense. Ça se trouve tu connais ou juste. Un coup de vent change tout dans dans le monde.
Oui, c'est l'histoire du papillon, quoi.
Voilà, exactement.
C'est le battement d'aile du papillon qui fait que ça va créer un ouragan quelque part. Quoi,
donc, pour moi, je le relis vraiment à ça quelque part. Toi,
c'est l'effet papillon.
C'est l'effet papillon.
Et Nabar, si tu nous écoutes, il a fait une chanson.
Oui, et en fait, du coup, moi, ça m'a amené du travail. Et en fait, tellement de travail que ça devenait. Enfin, j'avais aussi lancé le podcast en cours de route. À un moment donné, je faisais le Ninja Project et le podcast, et j'avais des commandes, et ça affluait de plus en plus parce que le mouvement appelle le mouvement, et c'est devenu de plus en plus compliqué de faire les trois. J'ai essayé pendant un temps, et puis après, au bout d'un certain temps, je pense qu'il y a eu les vacances.
En fait, on avait fait le tour.
On s'était dit plein de fois, allez, on va le reprendre.
Ouais, on va le reprendre, ouais.
Puis finalement, on l'a jamais repris.
On le reprendra peut-être jamais. Hein.
Bah, je pense que pour moi, cet épisode, c'est une sorte de clôture.
Oui, puis il est possible qu'on fasse une expo ou quelque chose.
Oui,
ça, voilà,
probablement.
Ça peut être dans les cartons aussi.
Et puis toi, c'était un peu en décalé.
Ça a mis un peu plus de temps. En fait, moi, j'ai mis plus de temps à me dire, ça valait le coup de faire le Ninja Project. Donc, en fait, j'ai encore eu quelques mois qui étaient un petit peu compliqués. Même si, en fait, dès que le Ninja Project a été fait, en fait, il y a eu des commandes qui sont tombées. C'était pas encore ce que j'espérais et pas encore l'affluence. Du coup, il y a peut-être fallu 3-4 mois comme ça. Et tout d'un coup, l'effet du Ninja Project a fonctionné puisque j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot tout d'un coup.
Et ouais, mais t'as aussi.
Mais j'ai continué Instagram.
T'as continué Instagram et t'as continué à amplifier le mouvement, notamment
en
aussi,
faisant de nouveaux challenges.
C'est-à-dire?
Notamment le Blocktober qui est en fait le pendant pixel art du Inktober.
Ouais.
Donc pareil, je l'ai fait. Donc j'ai essayé de le faire sérieusement et j'ai pas pu le faire complètement à fond.
Ouais.
Mais le peu que j'ai fait en fait m'a ramené beaucoup de choses intéressantes au niveau des commentaires. Aucun client direct. Hein. Moi, Instagram ne me ramène pour le moment aucun client direct. Mais les gens le voient.
Ouais.
Et ça, c'est sûr.
Oui, mais alors. T'as quand même d'une autre manière montré ta tête, c'est-à-dire que t'as donné une masterclass sur la chaîne YouTube d'Adobe, t'as donné un talk lors des soirées Meet the Talent dont on a déjà parlé sur ce podcast, qui sont organisées par le laptop, le coworking où toi et moi on travaille tous les deux.
Et du coup ça a été en fait c'est vrai qu'en fait ces talks-là, d'être devant du public et devoir parler de son travail, et désolé je t'ai coupé parce que t'allais dire qu'on avait participé aussi au Creative Mornings, on a fait un talk en duo.
C'est ça, on parle en fait du sujet qu'on aborde aujourd'hui, si ça vous intéresse, si la vidéo est en ligne quand l'épisode sortira, je vous le mettrai en lien, vous pourrez aller voir, ça dure une vingtaine de minutes je crois. Mais vas-y, continue.
Voilà. Et donc, du coup, en fait, ces talks-là, en fait, sont tous la continuation, en fait, du Ninja Project, parce qu'en fait, dans ces talks, je suis obligé de me mettre à nu, de raconter mon parcours. Et, il y a certainement des redites, hein, ceux qui ont vu des talks récemment.
Ouais, c'est clair. Ouais.
J'allais forcément reparler de certaines choses aujourd'hui. Mais en fait, ce travail-là est vraiment super intéressant, parce qu'en fait, il n'y a aucun danger, hein. On pourrait dire, c'est une mise en danger, mais non, en fait, c'est pas une mise en danger, parce que vous êtes qu'entre personnes qui viennent pour partager les mêmes choses que vous. C'est des gens qui sont intéressés par la création. Donc, il n'y a pas de mise en danger. Mais, il y a ce petit côté grisant de se dire je vais parler devant du public et c'est pas forcément évident. Moi je sais que je suis assez à l'aise mais n'empêche hein, moi j'arrive Laurent Bazar hop il faut aller sur scène et puis il faut parler. Vous avez une boule au ventre quoi, c'est obligé. C'est génial comme sensation parce que la boule au ventre en fait elle disparaît au bout de 3 minutes parce que vous êtes dedans, vous commencez à parler et vous voyez que les gens ils sont réceptifs et voilà, puis ça déroule et on aborde plein de choses qui sont intéressantes et on peut donner des clés aux personnes qui vous écoutent en fait. On a l'impression qu'on dit de la merde. Et en fait, à la fin, les gens viennent voir, on dit merci. Voilà, ouais. Merci d'avoir dit de la merde, parce que c'est vraiment ce que je... c'est ce qu'on voulait... On voulait entendre quelque chose comme ça, quoi.
Et cette mise à nu en public de certaines des parties un peu compliquées de ton parcours, ça te fait quoi? Enfin, c'est compliqué d'en parler
Ouais, bien sûr, c'est super compliqué, parce que c'est pas des choses dont j'ai parlé pendant des années, en fait. C'est toujours la même chose, tout ce qu'on refoule, tous les blocages qu'on a, en fait, ils font que nous freiner pour rien du tout, en fait. Il faut dédramatiser et puis s'en servir pour faire des choses, en fait. C'est connu, hein. Il y a plein de compositeurs qui écrivent de superbes chansons après avoir eu des pires malheurs de la vie, quoi.
C'est ça.
Voilà. chaque balle.
On en revenait, oui. On en revient à transcender, en fait, à transformer les...
Eminem,
allez.
Allez. Non, mais voilà, enfin, vous pouvez en citer
la,
bien.
La liste est longue, ouais.
La liste est trop longue.
Donc, pourquoi pas...
Tout le monde.
Ouais, c'est ça.
Ouais, tous ceux qui fonctionnent bien, bah, c'est sûr.
Ouais. Ok, et là, tu es dans une période où t'as la tête sous l'eau, t'as plein de taf,
ouais.
Et tu sais que
ça fait deux mois.
Ça fait deux mois là où tu bosses à fond les ballons. Tu sais que je suis assez attaché au principe de semer, labourer, récolter,
oui, oui.
Le principe de la patate.
Merci Claude.
Ouais. Et est-ce que oui, on pourrait dire que les deux dernières années, tu as beaucoup semé, élaboré. Et là, est-ce qu'on pourrait dire que tu es dans une période de récolte ou tu vois ça comment, toi?
Ah non, pas du tout. En fait, moi, je pense que depuis deux ans, je fais absolument n'importe quoi. Et ça fait seulement depuis Ninja Project où j'ai enfin remis de la méthodologie dans ce que je faisais.
Ah oui, donc un an, quoi.
Ouais, même pas. Ça fait même pas un an que je refais les choses sérieusement parce que je travaillais à domicile. Ça, c'est un truc que j'ai pas encore dit. Je passais encore un peu de temps. Je vais un peu en parler. Ouais, bah oui, pendant toutes ces années, en fait, j'ai jamais pratiqué le coworking ou l'atelier ou travaillé avec quelqu'un. Ça, je l'ai fait vraiment quand j'étais au Beaux-Arts, en fait. Et ensuite, je l'ai plus fait du tout. Donc, je travaillais tout le temps chez moi. Donc, quand on travaille chez soi, eh ben, on voit personne.
Et on voit personne,
bah du coup bah on développe aucun réseau et puis voilà, c'est un petit peu sclérosant, quoi. Mais en même temps, moi j'étais dans mon petit confort et ça m'allait très bien, j'ai pas besoin de voir des gens, jusqu'à ce que bah vous rendez compte que les boulots viennent plus, en fait. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, quoi. Les boulots n'arrivent plus, et là vous vous dites, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça marche, ouais. Bien, ce que je fais. Pourquoi les gens ne m'appellent plus?
Toujours aussi bon. Travail.
Bah ouais, mais non. En fait, si vous vous remettez pas en question sur des choses comme les réseaux sociaux qui sont devenus indispensables, bah vous pouvez être comme moi et les détester. Moi, je déteste les réseaux sociaux. J'aime pas. Je trouve que c'est pas la meilleure invention du siècle, quoi. Mais ils sont utiles, ils sont pratiques, et puis on est dans un milieu où c'est pas encore gangréné par la connerie. Donc milieu artistique, c'est quand même assez bienveillant, je trouve. La plupart de C'est quand même rare que quelqu'un vienne poster ce que t'as fait, c'est vraiment un chier. Pourquoi tu fais ça? T'es qu'une merde. J'ai jamais vu des messages comme ça. C'est peut-être arrivé à quelqu'un, hein. Mais je le vois pas. Enfin, la plupart du temps, les gens, ils vous écrivent pour dire, bah, c'est super bien ce que t'as fait, c'est super chouette. Ouais, super, super cool. Je te fous un pouce. Je te mets un cœur. Vas-y, bah, voilà, quoi. Donc, j'ai été un peu idiot de pas voir ça, en fait, de me dire, bah non, c'est pas pour moi les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, c'est super valorisant. Quand on le fait bien et qu'on est honnête, c'est cool.
Donc si on pourrait...
Et donc du coup, parce que je fais un petit peu mon Georges Perec, là, je vous départage, je les ferme pas. pour fermer la parenthèse, bah du coup oui, j'ai suivi en fait les idées de Jérémy là-dessus, c'est-à-dire que Jérémy, il a eu besoin lui de, il aime pas travailler uniquement tout seul dans son coin, il aime bien côtoyer des gens, donc du coup il m'a invité à venir voir comment ça fonctionnait un coworking, donc notamment à la Fontaine aux Livres. On a passé un super super moment, toi des années puis moi quelques mois, mais j'ai adoré ce moment, la Fontaine aux Livres. Et bah du coup, de travailler en coworking, bah ça m'a complètement ouvert mon horizon, parce que je me suis dit, bah tiens, j'arrive le matin à 8-9 heures, hop, on est dans un tunnel de travail toute la journée. À midi, on va discuter avec des gens qu'on connaît absolument pas, qui vont nous faire découvrir leur vie, leur travail. C'est passionnant. Et à 14 heures, on s'y remet, et à 18 heures, on rentre chez soi. On a fait une super journée de travail, quoi. Et ouais. Ce que je faisais pas chez moi, parce que chez moi, bah, je peux très bien bosser une heure, et puis bah, tiens, il me manque un épisode de telle série, bah tiens, je vais regarder, ça me fera une petite pause. Puis après, tu te remets au boulot, puis après, tu refais encore une pause pour faire un petit 4 heures, tu vois, tu te fais ta petite tartine de chocolat tartinée, et puis voilà, c'est puis il est l'heure d'aller chercher le petit à l'école, et puis voilà. Et puis en fait, ta journée, elle est complètement grillée quand tu travailles à domicile, parce que ça demande une telle discipline. Il y en a qui arrivent à le faire, hein.
Oui,
puis
il y en a beaucoup.
Il y a forcément des jours où j'arrive à le faire très bien, hein, il y a pas de souci. Mais c'est juste pour dire que le faire tout le temps, tous les jours, bah voilà, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est trop compliqué.
En fait, c'est se donner un rythme qui est important.
C'est ça. Alors, un coworking, c'est un prix.
Oui.
Ça coûte cher. Mais comme le mouvement appelle le mouvement, bah vous allez travailler pour pouvoir payer votre coworking, et le fait de travailler pour pouvoir payer votre coworking va amener d'autres travaux qui vont eux-mêmes payer le reste, etc., etc. Et en fait, c'est cette proportion de travail que vous mettez, en fait, qui va faire que vous allez pouvoir tout faire. Et je vous le dis parce que moi, j'y croyais pas. Moi, je pensais que coworking, bah, ça allait me coûter les yeux de la tête, et ça allait encore me faire un frais en plus dans le mois. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Maintenant, je suis capable de payer un coworking.
On pourrait presque dire qu'en mettant la barre plus haute, financièrement notamment.
Oui.
Ça t'oblige, toi,
exactement,
à mettre la barre plus haute dans ta...
C'est une prise de risque.
Ouais, c'est ça.
Parce que, alors, autant on a dit la mise en danger, c'est du flan, mais la prise de risque, elle est réelle. Vous devez prendre des risques. Si vous voulez accomplir quelque chose auquel vous tenez vraiment, bah, il faut prendre des risques. Il n'y a pas de choix. Tous les gens qui réussissent prennent des risques.
Oui, c'est vrai.
Nous, on n'est pas du tout des businessmen. On est complètement étrangers à ça. On n'est pas dans cet univers complètement capitaliste. Parce que même quand on gagne beaucoup, bah, on gagne pas grand chose par rapport à ces personnes-là. Bah, quand vous discutez avec des gens comme ça, si vous en avez l'occasion, moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois. Waouh. Ok, d'accord. Je voudrais pas être lui. Parce que bah, le mec, c'est un vrai capitaliste. Mais ok, d'accord. En fait, le gars, pour arriver à ça, il a fait ça. Et ouh, quel parcours, quoi. Tu dis, le mec, en fait, à une vingtaine d'années, il a pris une décision qui l'emmenait au bout du monde. Il a fait le truc qu'il voulait faire, ça a marché. Il est revenu, il a tenté des tas de trucs. Bah, pourquoi il a réussi? Bah, parce qu'il a pris des risques, tout simplement. Apprécie ou n'apprécie pas ce qu'il fait.
Il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de secret sur l'histoire de la réussite. Donc, si vous prenez juste 1 ou 2% de ce que font ces gens-là, bah, forcément, vous pouvez réussir mieux que ce que vous avez.
Et puis, quand tu prends un petit risque, enfin, qui te fait peut-être déjà un peu peur au début, mais tu prends un petit risque et tu te rends compte qu'en fait, comme dirait Shrek, t'es pas mouru là.
Bah non, t'es pas mouru.
T'es pas mouru. En fait, tu peux prendre un plus gros risque derrière.
Oui.
Et en fait, c'est un cercle vertueux.
Puis le risque, ouais, c'est ça. Le but du jeu, c'est sortir de votre cercle vicieux pour rentrer dans un cercle vertueux. Et les risques sont pas uniquement financiers. Ça peut aussi être des risques stylistiques. Ça peut être des risques philosophiques. Vous pouvez remettre en question tout ce que vous voulez ou ne pas remettre en question.
Ouais.
Mais prenez des risques parce que ça.
Bah, c'est le mouvement, quoi.
Ouais, il y aura un bénéfice à ça.
On peut pas rester
ça,
statique.
Puis voilà. Puis comme tu le dis souvent sur ton podcast, bah, tout le monde a plein de super bonnes idées. Bah, allez, go.
Ouais, go.
Faisons les idées. Mettons-les en pratique.
Allez,
agissons.
Allez, go. Super. Bah, Laurent, je pense qu'on va s'arrêter là.
Arrêtons-nous là.
Merci, Laurent. Et puis,
non, merci, Jérémy.
Au plaisir.
Et bah, très bien. À bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao.
C'était ma discussion avec Laurent Bazard. Une discussion que j'ai évidemment beaucoup appréciée. Ça fait toujours du bien de regarder en arrière pour remarquer le chemin parcouru. Vous devriez essayer, c'est pas mal. Et puis faites des collaborations, c'est cool aussi. Anyway, merci Laurent pour ton temps, ton aide et ton amitié au fil des années. Je suis ravi d'avoir enfin pu enregistrer cet épisode avec toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à Laurent en lui écrivant directement ou en le suivant sur Instagram. Vous découvrirez par la même occasion un univers riche et foisonnant de petits détails, peuplé de petits carrés de 72 points par pouce. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, si le Ninja Project vous a interpellé, le meilleur moyen est encore de remonter nos feeds jusqu'au mois de février 2019. À partir de là, vous pourrez découvrir la cinquantaine d'illustrations que nous avons chacun réalisées pour ce projet. Et si ce n'est pas assez, je vous invite soit à visionner notre talk lors des Creative Mornings à Paris, nous l'avions intitulé « Tous ceux qui vagabondent ne sont pas perdus » ou à regarder le talk de Laurent donné lors des soirées Meet the Talent. Vous m'avez déjà entendu en parler. Comme d'habitude, vous retrouverez ces liens et bien plus encore dans les notes de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous, à vous abonner sur vos applications de podcast, à me laisser quelques étoiles, 5 de préférence, ou à m'écrire un commentaire sur iTunes et Apple Podcast. Ça m'aide vraiment et c'est ce qui permet à ce podcast de se faire connaître. Et pour être sûr de ne plus rien louper des actualités de ce podcast, vous pouvez également vous abonner à ma newsletter afin de recevoir toutes les deux semaines, en plus des liens et des notes de chaque épisode, une recommandation pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. C'est du fait maison, je vous partage vraiment les ressources qui m'ont aidé au fur et à mesure des années. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais dire merci aux nombreuses personnes qui, comme Laurent, ont décidé de soutenir le podcast sur Patreon. Votre enthousiasme a vraiment fait du bien et je suis heureux de débuter cette nouvelle aventure avec vous. Si ça vous botte de faire partie du Club Sens Créatif afin d'accéder à des mini-épisodes exclusifs du podcast, visitez patreon.com/senscreatifpodcast. Les contributions démarrent à 2 euros par épisode, soit le prix d'un café. Et moi, de mon côté, ça me permet de continuer à mener ce projet dans de bonnes conditions. Encore une fois, merci à vous. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuyMusic ou écouter sa musique sur sa page SoundCloud. Et pour les curieux, les extraits audio que vous avez entendus dans cet épisode sont issus des films Les 7 Samouraïs et Yojimbo, sortis en 1955 et 1961 et réalisé par Akira Kurosawa. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.